J'ouvre la séance et nous allons procéder à l'appel nominal des conseillers. Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel. Présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barouin Dolores.
Présent.
Biaise Michel.
Présent.
Bommelaire Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie, absente, pouvoir à Marie-France Merlin. Coulet Dominique, absente, pouvoir à Patrick Fleury. Cournil Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence, absente. Fagot Edwige.
Présent.
Fleury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie, absente, pouvoir à Patrick Stéphane. Galzinski Nicolas.
Présent.
Grosbon Lisiane.
Présent.
Lamy Christophe. Absent. Pouvoir à Lisiane Grosbon. Lemercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe. Absent. Raguido Cécile. Absent. Pouvoir à Odile Arnoux. Raoui Ferrugia. Absente. Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick,
présent.
Présent. Il y a 17 présents. La séance sera donc valide. Il y a 5 pouvoirs. De Clos-Marie, Coulet-Dominique, Fourdrin-Stéphanie, Lamy-Christophe et Raguido-Cécile. Bien, premier point. Donc, je constate que le quorum est atteint, que la séance sera valide. Nous allons donc maintenant procéder à la nomination du secrétaire de séance qui est candidat à ce poste, Laurent. Monsieur Laurent Bommelaire, secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Laurent Bommelaire, secrétaire de séance. La lecture de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour. Hormis l'élection du secrétaire de séance, nous avons bien sûr l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, la lecture des décisions du maire numéro 3 et numéro 4, les décisions de la lecture des décisions de droit de préemption urbain, et ensuite on va attaquer le cœur du sujet avec la décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2017, la modification du tableau des effectifs, le régime indemnitaire filière police, le régime indemnitaire filière administrative, le règlement intérieur applicable au personnel communal, deux annulations de titres sur exercice antérieur, Orange et Madame Leclerc-Sigler, location de salle, modification d'horaire et autres, résidence intergénérationnelle, convention de transfert d'espace commun. Ensuite, c'est plutôt de l'information, mais de l'information à caractère un peu officiel, compte rendu de la concession 2016 de GRDF et rapport d'activité 2016 du SE 60. Nous aurons ensuite et enfin les questions diverses. Bien, donc premier point de l'ordre du jour, procès verbal des délibérations du conseil municipal du 30 juin. Avez-vous des remarques, des questions? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 1. Décision modificative numéro 2. Je vais donc passer la parole. Là, j'ai coupé dans les virages là. Décision du maire. Alors, décision du maire numéro 3. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de services de balayage mécanisé, lavage, décapage des caniveaux et trottoirs avec l'entreprise Veolia Propreté, Nord Normandie, espace industriel Nord, rue du Fief, 82 080 Amiens, pour un montant maximal annuel de 50 000 euros hors taxe, 60 000 euros TTC, passé selon la procédure adaptée. Alors ça y est, j'ai perdu. Ah non, voilà, je le retrouve. Juste un petit commentaire donc, sur ce contrat. Il s'agit bien d'un montant maximum annuel si on fait appel à toutes les prestations qui sont dedans, dont un certain nombre de prestations optionnelles auxquelles qu'on a mis dedans parce qu'on peut faire appel à ces prestations optionnelles de décapage, etc. Mais si on prend le balayage, ce contrat sur 3 ans, je crois que c'est ça.
C'est 1 an renouvelable 3 fois, ça fait 4 ans.
4 ans, 1 an renouvelable 3 fois. La mission balayage, qui est la plus classique, sera d'un coût annuel de 15 770 euros hors taxe, pardon. Donc ça fait en gros plus 3 000, un peu plus de 3 000, ça fait moins de 19 000 euros.
Pour combien de passages ?
Pour 10 passages par an et accompagné du souffleur, donc à la vitesse du souffleur. Donc je crois que c'est quand même un prix qui est extrêmement intéressant et qui a été bien négocié.
Sur la surface de la ville. À la prestation.
La prestation en marché. Non, non. Voilà, 2200 euros. Bon, là, on voit qu'on est à 1500, enfin hors taxe, donc 1800 TTC.
Dans tous les quartiers, sur toute la surface de la ville.
Oui, ce qui a été donné, c'est la longueur de notre voirie. Alors, dans la longueur de notre voirie.
C'est on est passé sur 44
km. Ouais. Ça se voit.
Il est passé plus mardi. C'est fait proprement. Enfin, ça se voit où
ils
passent.
Bon, ils étaient là 3 jours, donc le 18, 19, 20. Donc ils ont dû terminer aujourd'hui. Voilà, donc ils sont passés partout. Je crois que c'est. Bah, là, ça vient d'être souligné. C'est la deuxième fois, je crois, qu'ils passent dans le marché, en fait. Hein, c'est la deuxième fois. C'est une opération de qualité aujourd'hui. On peut s'en féliciter. Voilà. Donc cette affaire est en cours et permet donc d'améliorer la propreté de la commune. Oui.
Le montant reversé par l'ARC est...
Alors le montant reversé par l'ARC ne comprend pas que la mission balayage. Hein, il comprend aussi l'élagage, puisque aujourd'hui le montant exact, je ne peux pas vous le donner. Tout simplement parce qu'on a fait des travaux préparatoires, mais que la CLECT, qui doit statuer sur, CLECT, commission locale, j'ai un peu de mal, d'évaluation des compensations, des attributions de compensation, si elle s'est réunie pour la partie fiscale, ne s'est pas réunie pour le reste, et donc la CLECT ne s'est pas encore réunie. Bon, avant, on était arrivé à un montant... mais qui ne comprenait pas que le balayage, mais qui était largement supérieur à ça, tourné plutôt autour de 40 000 euros. Mais encore une fois, elle ne comprenait pas que le balayage. Il y a une partie élagage qui était dedans. Néanmoins, je pense que c'est l'externalisation, dans ce cas-là, est plutôt gagnante. Et puis, elle nous épargne aussi un tas d'autres choses qui... Ces balayeuses étant des machines toujours assez sensibles, il y a une maintenance qui est non négligeable avec, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle peut donc, hormis les coûts, elle peut aussi être indisponible pendant un certain temps. Là, c'est le problème de celui vers qui on a externalisé. Voilà pour ce marché. Décision numéro 4. Donc, monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie. Vu le code des collectivités générales des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de travaux de rénovation de l'école maternelle des Remparts avec les entreprises suivantes. Donc le lot 1, qui était le lot VRD, qui en fait a déjà été exécuté. Société Eurovia Picardie, agence de Compiègne, boulevard Henri Barbusse. Voilà, il y a l'adresse. pour un montant de 34 151 euros et 50 centimes. Voilà. Lot 2, menuiserie extérieure entre société Norba Île-de-France Nord, Zédil et Mardel, 2 rue François Arago à Aulnay-sous-Bois, pour un montant de 118 550 euros. Bon, c'est le lot le plus important. Et le lot 3, couverture d'étanchéité, puisqu'il y a une partie de la voiture de l'école maternelle qui a vieilli de manière prématurée. Société ECP Concept, pour un montant de 13 328 euros et 5 centimes hors taxe. À chaque fois, j'ai donné les montants hors taxe. Je peux citer les montants TTC si vous voulez, il suffit de rajouter 20%. Hein. Les trois dans l'ordre en TTC, 40 981 euros. 142 260 euros pour les menuiseries extérieures et 15 993 euros pour la couverture d'étanchéité. Je rappelle que sur ces travaux, qui sont donc partiellement exécutés, je crois qu'aux vacances de la Toussaint, on va avoir les lots 2 et 3 qui vont commencer. Enfin, le lot 3 va être exécuté. Allez-y.
Le lot 3 sera terminé et le lot 2 sera fait en partie, puisqu'il y a un plan de retrait à cause de la présence d'amiante sur certains panneaux. Et ce plan de retrait ne sera pas validé pour les prochaines vacances de la Toussaint. Donc ce sera très certainement reporté aux grandes vacances d'été, en 2018.
Bon. On a découvert l'amiante. Je crois que lors du premier passage, personne n'avait vu d'amiante.
Alors on avait fait un DTA, un dossier technique amiante. Il n'avait pas été détecté. Et... il y a eu une deuxième recherche, il y a eu un complément, et là on a détecté la chose.
Bon, donc ça veut dire un process plus complexe, hein, évidemment, avec des autorisations, donc des délais. Bon, voilà. Mais les opérations sont engagées. Oui. Derrière ça, je rappelle simplement que sur cette opération-là, nous bénéficions à la fois d'une subvention du conseil départemental qui est de 82 000 euros, à peu près, hein, pas l'euro près, mais... et d'une subvention DETR, c'est ça, mais qui porte uniquement sur l'aspect menuiserie, si je me souviens bien, et qui est de 40%. 40% des menuiseries, donc TTC, non, hors taxe. Donc 40% de 118 000, on doit être à 45 000 euros par là. Voilà, pour cette affaire-là. Sur la partie VRD, on en a profité effectivement pour revoir tout ce qui est seuil de porte, etc., et donc se mettre en conformité avec les normes des personnes à mobilité réduite. J'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire, je pense.
Juste donc ça se rend en un seul bloc, tout le changement des menuiseries.
Non, ça se fait en deux fois. D'accord. La première fois, vous voyez bien l'école, toutes les parties où il y a les panneaux bleus.
Oui.
Dans la cour,
c'est là où il y a de l'amiante.
Donc toutes les autres parties, que ce soit porte, fenêtre en hauteur, les portes d'accès, la partie gymnase, tout ça, ça va être remplacé là au mois de...
Ah, d'accord. Oui,
donc partie, il ne restera plus que la partie... D'accord, oui.
Donc une partie vacante à Toussaint.
L'autre et l'autre partie, très certainement,
oui, d'accord, cool, c'est
puisque
bon.
L'entreprise ferme à Noël.
Oui, oui.
Et les vacances de février, la problématique des vacances de février, c'est qu'on va... Il fait très certainement très froid.
Oui, oui, non, mais c'est pas...
Bon, pour faire sécher les joints, s'il faut, c'est qu'on va...
Okay. Voilà.
Excusez-moi, les panneaux bleus, c'est quoi? Là, je vois pas les panneaux bleus.
Quand vous êtes face à la maternelle, quand vous regardez la cour, vous voyez
sous des fenêtres.
C'est les sous-bassements.
Les sous-bassements de fenêtres sont bleus. Vous les voyez? C'est toutes ces parties-là.
C'est de l'amiante.
Pardon?
C'était une sorte de plastique.
Ah non, c'est de l'amiante. C'est vraiment
l'amiante.
Ah oui.
En totalité?
Ah oui, toute la partie bleue, c'est de l'amiante.
Comment?
Ah ouais, ouais. On a fait un prélèvement et le diagnostiqueur l'a envoyé en laboratoire et on a une bonne amiante. Enfin, de toute façon, il me l'a dit dans 30 jours.
Ah bah oui,
de faux, c'est déjà bien.
Bon, aujourd'hui, dans tous les travaux de rénovation qu'on va entamer, hein, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Voilà. Pour prendre un autre exemple, typiquement, il y a le marché de Picardie Habitat sur le square des Merlets. C'est pareil, ils ont découvert de l'amiante partout.
Ah oui, dans les sols peut-être.
Je me demandais pas là, je suis pas à fond. Enfin, quand je dis partout, j'exagère un peu, mais ils en ont trouvé quand même pas mal. Bien, je fais circuler le cahier avec tous les. Alors, il y a le dernier PV effectivement à signer, mais il y a aussi des petits retardataires avec des onglets jaunes. Donc, si vous pouvez signer en même temps, merci. Décision de droit de préemption urbain. Donc, nous n'avons pas exercé notre droit de préemption. Et donc, oui, nous avons 48. Monsieur et Madame Rossignol, 38 rue de la République. Voilà. Monsieur et Madame Ferreira Meunier, 1 rue Jean Mermoz. Monsieur Panier Romain, 9 rue Alexandre Dumas. Monsieur De Corby, Madame, pardon, De Corby Sylviane, 15 rue Hippolyte Paulin. Monsieur Pereira Joachim, rue Jean Corbon. Les consorts Trigalet, 6 rue Joseph Pinjot. Monsieur Padieux, Madame Padieux Agnès, 53 rue de Paris. Monsieur et Madame Houssard Yannick, 5 impasse des Hirondelles. Madame Aguiar Florence, 7 bis rue des Moulins. Monsieur et Madame Unimont, 7 bis rue de la Cisoie. Monsieur et Madame Dias Carvalho, 41 rue du Port. Monsieur Cardon Sébastien, 9 rue Jean Jaurès. La SCI Domino, lieu dit La Main Fermée. Les consorts Zicard, 8 rue de la Pêcherie. Madame Vallée, Rosa-Marie et Jonathan Vallée, 73 avenue René Firmin. Monsieur et Madame Gauguillon Éric, 3 rue Saint-Nicolas. Et la SCI du chemin Saint-Sauveur, 4 route de Saint-Sauveur. Voilà pour ce qui concerne les DIA. Donc maintenant, effectivement, nous arrivons à la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2017 et je vais céder la parole à Monsieur Patrick Stéphane, adjoint aux finances.
Bien. Monsieur le Président de séance expose à l'Assemblée qu'il est nécessaire de procéder à des modifications au niveau du crédit budgétaire. Il y a lieu d'ouvrir des crédits pour permettre le paiement de la contribution du SDIS pour l'année 2017 et faire face à l'acquisition d'un nouveau camion de grue pour les services techniques suite au vol et à la destruction par le feu du camion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devait cette année ne pas avoir à régler le SDIS puisqu'on intégrait l'ARC. Or, une modification est intervenue, donc nous, on ne l'avait pas intégré dans notre budget. Et la reprise du SDIS ne sera effective qu'au 1er janvier 2018. Donc cette année, nous allons avoir à payer le SDIS dans le cadre de notre budget. Toutefois, dans le cadre des compensations, ça ne changera rien au budget de façon générale, puisque ce montant devait nous être retiré du montant de la compensation que nous devions avoir. Donc, ça va faire, c'est une opération blanche en fait. Hein. Ça va être une opération neutre. Simplement, on a besoin de réintégrer dans notre ligne budgétaire appropriée le montant du SDIS qui est à payer, qui est à peu près de 181 000 quelques globalement. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir surtout.
Simplement, l'ARC comptait bien procéder de la première manière, mais la préfecture lui a dit que ce n'était pas possible. Voilà.
Il y a également, suite à la destruction du camion, il y a des opérations à réintégrer. Nous avons donc dans le cadre de notre section de fonctionnement recettes des compléments qui sont arrivés par rapport au budget initial. Nous avons reçu le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales que nous ne devions pas avoir, mais que l'ARC nous reverse cette année de façon exceptionnelle. L'an prochain, nous ne l'aurons plus, pour un montant de 51 000 euros. Nous avons reçu sur le chapitre versement de prélèvement de l'État 19 000 euros. Ce sont des sommes que Mme Javelot nous a récupérées. Merci à elle, Mme Javelot. suite à des sommes qui étaient en attente à la perception depuis un bon petit moment. Voilà. Y a un montant de taxes additionnelles au droit de mutation qui est supérieur à celui qu'on avait prévu pour un montant de 6 000 euros. Et des produits exceptionnels, donc c'est le remboursement du camion de 37 000 euros qui sont en recettes complémentaires. Donc, suite à ces opérations-là, nous avons donc en section de fonctionnement dépenses du compte 615-231, c'est entretien et réparation voirie, un retrait de 68 000 euros et également à basculer sur le compte 65-548, autre contribution, plus 181 000 euros pour le SDIS. Qui fait un total de donc 181 000 moins les 68 000, 113 000 euros. Pour la section de fonctionnement en recettes, donc comme je viens de le dire, le Fonds national de péréquation compte 73 223 51 000, reversement prélèvement de l'État compte 73 23 plus 19 000, taxe additionnelle droit de mutation compte 73 81 plus 6 000, les produits exceptionnels compte 77 88, le remboursement du camion 37 000 euros, soit un total de 113 000 euros. En section d'investissement, en dépenses, nous avons sur le compte 21 88 autres immobilisations corporelles, nous mettons 80 000 euros, que nous déduisons du compte immobilisation en cours construction 23 13, 80 000 euros pour les opérations de rachat. Voilà. Donc là-dessus, on a une opération neutre en section d'investissement.
Pardon, voilà. Le camion, le vol du camion, ça nous a coûté combien ?
Alors, en fait, avec le remboursement du camion, et, parce qu'on avait récupéré la TVA, hein, quand même savoir qu'on avait récupéré la TVA, il y a le remboursement du camion 37 000, pour racheter un nouveau camion, ça va nous coûter en gros 10 000 euros. Hein. C'est un camion qui sera aux nouvelles normes, puisqu'entre-temps, on était en Euro 5, c'est ça,
monsieur ? On était à la norme Euro 5.
Euro 5 et on passe en norme Euro 6, donc c'est un petit peu plus cher. Voilà. Ça va nous coûter 10 000 euros, cette affaire.
Et en d'occasion, ça se trouve pas
oh, on ne peut pas se permettre d'acheter de camions d'occasion pour du... Parce que, en plus, là-dessus, on récupère la TVA hein, sur un camion comme ça. Hein.
Et sur l'occasion, tu as de la TVA aussi, tu récupères la TVA.
Ouais, enfin, on ne va pas aller sur. Enfin, c'est de l'investissement sur, qui est amortissable sur 7 ans. Je pense qu'il faut que ce soit du matériel qui soit fiable, qu'on n'ait pas de travaux à refaire dessus. Je pense qu'il faut. La commission. On a passé ça en commission finance récemment. On en a discuté en commission finance. Ça ne s'avère pas très intéressant, en fait.
La grue, en plus, c'est un dispositif qui est quand même, avec une pompe hydrostatique, etc., sont toujours des dispositifs un peu fragiles. Voilà. Donc, ce qu'on espère, évidemment. Alors, d'abord, arrivée donc de Monsieur Jean-Claude Lemercier, 20h29, porteur d'un pouvoir de Philippe Rabé. Que dire là-dessus ? Sur le camion, on vient effectivement d'en parler. On a regardé en commission des finances diverses solutions. On a même évoqué la possibilité de dire on achète un camion sans grue, on fait de la location de grue. Bon, calculant tout, il s'avère que ce n'est pas un choix judicieux. On en a débattu en commission et on a donc choisi de reprendre un matériel identique qui nous permet de faire face aux opérations planifiées, mais aussi aux opérations imprévues, et aussi à tout un tas de petites manœuvres qui permettent aussi d'économiser la santé de nos salariés, ce qui est aussi quelque chose d'important. Voilà, parce que ce sont des postes où on souffre, des efforts, etc., et il faut essayer de minimiser les impacts. Voilà pour cette affaire du camion. Je rappelle qu'il a été volé pour finalement démonter une pièce qui valait 2000 euros et il a été brûlé. Bien. Oui, donc tu as raison. On va peut-être passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres questions. Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Deuxième point, modification du tableau des effectifs. Alors, en fait, c'est un toilettage du tableau des effectifs suite à un certain nombre de, notamment de décisions et puis aussi de recrutements qui se sont faits. Donc, on avait parfois ouvert des postes, plusieurs postes pour pouvoir faire le recrutement. Et comme on a aujourd'hui recruté la personne, bah, les postes inutiles sont toilettés. Voilà. Comment ? Pardon, les personnes. J'ai dit là ? Les personnes. Alors, dans les personnes, il y a au moins trois personnes, dont deux dont on va reparler après. La première personne, c'est Monsieur Nicolas Gaillard, puisque jusqu'à présent, il était sous contrat, et que là, maintenant, bon, pour l'instant, il est stagiaire, mais donc appelé à devenir titulaire, après quand même un certain nombre d'années au sein de la commune. Voilà. Ce qui, nous, en plus, nous placera dans une situation plus conforme à la législation. Les deux autres postes dont on peut parler, on va y revenir après. On a effectivement fait deux recrutements qui sont dus à deux départs à la retraite. Donc, il n'y a pas de recrutement supplémentaire ou d'augmentation des effectifs. Le premier, le premier que je vais citer, il y en a deux. On va les citer par ordre d'arrivée. Donc, la première personne qui va arriver vient remplacer Madame Brigitte Pithiot. C'est une dame qui s'appelle Virginie Doucouré. Cette dame est donc rédactrice principale. Elle travaille en ce moment à la ville de Goussainville. Voilà, c'est la personne qu'on a choisie. Pardon ? Ah, j'ai dit quoi ?
Virginie.
Marjorie, pardon. Marjorie Doucouré. Marjorie Doucouré. J'ai écrit Virginie là. Non, mais c'est Marjorie. Marjorie Doucouré qui va arriver chez nous le 15 octobre. Dès qu'elle arrivera, elle fera un certain nombre de petits stages. Elle ira vers le centre de contrôle, centre de gestion pour les aspects salaires. Et elle ira également faire un petit stage à l'agglomération de la région de Compiègne pour les aspects urbanisme. Voilà. Je pense que cette dame va donc arriver. Et voilà, rédactrice principale. Deuxième personne qui a été recrutée, c'est pour le départ de M. Marc Depp, qui va nous quitter donc en novembre. Est-ce que j'ai dit que Mme Doucouré arrivait le 15 octobre ?
Oui.
Bon. Donc la deuxième personne, c'est Mme Florence Kiefer, qui vient remplacer M. Depp. Mme Kiefer a déjà un passé de quelques années de police municipale. Jusqu'à présent, elle était à la police municipale de Creil, où elle dirigeait une équipe de 4 personnes. Donc elle a l'habitude à la fois de l'organisation, du commandement, voire des situations difficiles. Voilà, là aussi c'est un recrutement. À chaque fois, on reçoit effectivement les personnes de près, on regarde, on étudie tout ça. Madame Kiefer nous rejoindra le 13 novembre. Voilà pour cet aspect, ce toilettage qui est fait. Est-ce qu'il y a d'autres, vous voyez d'autres commentaires, madame ? Alors, monsieur Martinet, effectivement, est rentré dans l'équipe comme contractuel, dans l'équipe Espace Vert. Monsieur Martinet qui vient en remplacement, donc, de monsieur Porquier. D'accord ? Enfin, en nombre, hein. En nombre, il vient en remplacement de monsieur Porquier. Monsieur Keval ayant remplacé en son temps... Monsieur Azaz, Ahmed, ayant remplacé Ahmed. Donc tout ça, madame. Oui, alors j'en ai encore oublié quelqu'un, madame Lelon, qui vient remplacer madame Françoise Cailleux, qui, du fait de son état de santé, prend sa retraite. Donc encore une fois, tout ça se fait à volume constant. Voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans une situation... les recrutements à la commune ont toujours été raisonnables. Voilà. Quand les gens partent, il faut les remplacer. Et on est très attentif au recrutement de ces personnes. Sur la modification du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a encore des questions ? Bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bon, ensuite, on a deux délibérations qui sont le prolongement de ce qu'on vient de faire. La première concerne le régime indemnitaire filière de police. Donc, suite au départ, il y a un début que j'ai déjà indiqué. Donc on a recruté effectivement Madame Kiefer, brigadier chef principal, qui est nommée par voie de mutation et qui prendra ses fonctions le 13 novembre. Alors, il appartient au conseil municipal de déterminer la filière, le cadre d'emploi, le grade concerné par le régime indemnitaire, ainsi que le crédit global dans la limite des taux définis par les décrets. Il est donc nécessaire de définir le régime indemnitaire correspondant à ce grade. Considérant que le régime indemnitaire puisse prendre en compte la responsabilité fonctionnelle assumée par chaque agent, la qualité des missions effectuées et surtout la manière de servir, considérant que le régime indemnitaire doit être défini afin de pouvoir permettre au maire de l'utiliser comme un outil de gestion du personnel, il est proposé à l'Assemblée de créer pour le grade de brigade chef principal à compter du 13 novembre 2017 une indemnité spéciale mensuelle de fonction. Le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles est calculé comme suit. Traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension, hors supplément familial, fois taux de 20%, fois nombre d'agents concernés, 1. Une indemnité d'administration et de technicité, par référence à celle prévue par le décret 2002-61 du 14 janvier 2002, selon les taux moyens réglementaires en vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après. Le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles est calculé comme suit, montant de référence fois coefficient multiplicateur fois nombre d'agents concernés. Donc là, on voit un montant de référence que vous voyez à 495,94 €. C'est un montant de référence annuel. Un coefficient multiplicateur que je vous propose de voter à 8 et un nombre d'agents qui est 1. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va appliquer le coefficient multiplicateur 8, c'est le maximum, et on n'appliquera a priori pas le maximum. Voilà. Conformément aux dispositions du décret 2002-61 susvisé, les taux réglementaires moyens servant de base au calcul de l'IAT sont indexés sur la valeur du point applicable à la fonction publique. Ces indemnités seront versées mensuellement à l'agent concerné. Voilà, j'ai fini ma page de lecture. Questions ? Bien, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, sa petite sœur pour la filière administrative, grade des rédacteurs, donc avec Madame Doucouré qui arrivera le 15 octobre 2017. Donc on va quand même avoir une petite période de recouvrement avec Brigitte Pithiot. C'est quand même un poste assez complexe, donc il faut un peu de temps. Comme tout à l'heure, il appartient au conseil municipal de déterminer la filière, etc. C'est exactement le même paragraphe. Monsieur le président de séance propose donc à l'Assemblée de créer à compter du 1er octobre 2017 une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, IFTS, par référence à celle prévue par le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 pour le grade des rédacteurs. Que le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue les attributions individuelles est calculé comme suit, montant de référence, fois coefficient multiplicateur, fois nombre d'agents concernés. Alors c'est un petit changement. Hein. C'est que maintenant, on ne vote pas par agent, mais on vote la somme pour le nombre d'agents de même grade.
Hein. Une enveloppe, en fait.
Voilà, c'est une enveloppe. Donc, on voit pour le grade de rédacteur et le grade de rédacteur principal, le montant de référence annuel est le même de 868,15 €. Coefficient multiplicateur voté entre 1 et 8. Donc là, on le met à 8, mais comme tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'on accorde 8. Nombre d'agents titulaires ou non titulaires, donc rédacteur 1, rédacteur principal 2. C'était une petite différence par rapport à ce qui vous a été envoyé. C'est une petite coquille. Il avait été marqué 1 sur le document que vous avez reçu. Voilà. Avez-vous des questions?
Ces salaires équivalents, enfin, on les reprend. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire sur les nouveaux postes?
Non, à peu près, oui. À peu près salaire équivalent. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant. Règlement intérieur applicable au personnel communal. Alors c'est un document qui est plus épais. Effectivement, c'est intéressant d'avoir un document. C'est intéressant d'avoir un document, un règlement intérieur qui est applicable au personnel communal et qui permet d'exposer clairement eh bien, quelles sont les décisions à prendre dans un certain nombre de cas, les congés annuels, les horaires de travail, les absences, les jours pour voilà, la perte d'un proche, etc., etc. Tout ça est donc expliqué dans un règlement intérieur qui permet de bien clarifier les choses. Alors ce document, il a effectivement, pour l'essentiel, c'est un, on peut dire une synthèse de documents réglementaires, mais ça permet de les mettre tous ensemble et donc d'avoir une référence avec quelques particularités qui sont liées à la ville, et encore pas tellement.
Parce qu'on est très contraint par le,
règlement. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, hein, ce règlement, c'est un projet. Là, on vous soumet, on va l'adopter. Et ensuite, le comité technique paritaire doit donner son avis. Donc, ça veut dire derrière, si je ne me trompe, retour et validation définitive par le conseil municipal. Voilà. Donc là, c'est la première navette. C'est comme l'Assemblée et le Sénat, c'est la première navette.
Ça n'existait pas jusqu'à
présent. Non.
Non.
Ah, voilà.
Non.
Pourtant, c'est une obligation dans toute entreprise.
Non, c'est pas réellement une obligation. C'est, je pense, fortement conseillé.
Bah, dans le privé, c'est une obligation, mais ça doit être affiché
à l'entrée d'entreprise. C'est pas du choix.
Attendez, Madame Javelot va répondre, parce que là, c'est... Allez-y. Eh ben,
c'est pas du tout une obligation. Le principal, c'est que la commune applique les règlements qui sont définis au niveau national, mais ce n'est pas une obligation d'avoir un règlement intérieur.
Oui, mais c'est mieux.
Ah, c'est la différence.
Mais c'est pour ça que ça a été fait.
C'est mieux. Au moins, j'en ai voté un au sein de l'entreprise où je travaille. Et bien, c'est quand même mieux. T'as quand même des obligations à respecter. Ah, tu fais ce que tu veux, c'est la
marche. Oui, mais c'est pas parce que...
Non, c'est pas parce qu'il n'y en a pas un que c'est tu règles pas. T'as un règlement quand même. T'as
cité. Et en avoir et respecter les règles de bonne conduite.
Mais par rapport à certaines fonctions, ça peut être applicable par rapport
à... Oui, peut-être.
Alors, si on vote le règlement...
Pas mettre dans le règlement des choses qui diffèrent de la réglementation nationale. Le règlement ne reprend que ce qui est déjà défini par la réglementation. On ne peut pas être plus favorable, par exemple, que la réglementation.
C'est, en fait, c'est essentiellement, à 99%, un document synthétique qui rassemble la réglementation et qui, au moins, permet une lisibilité facile pour tout le monde, que ce soit les agents d'un côté et nous de l'autre côté. Voilà.
Oui,
c'est des questions courantes.
Oui,
hein. On n'a pas l'intention de faire un 1000 pages.
La question est d'afficher, c'est ça?
Oui, normalement.
Moi, j'ai tendance, effectivement,
c'est
si un professionnel d'appli, que ce soit affiché.
Bah oui.
Dans le privé, c'est affiché. Ça sera affiché et notifié à chaque agent. C'est plus de
20 pages. Je l'ai pas lu.
Ça veut dire que chaque agent a le compte aussi.
Oui, c'est ça. De toute façon, on va en remettre un exemplaire à chaque fois.
Ça sera notifié.
Hein, affiché, mais aussi il a un exemplaire.
Il y a même l'affichage, mais il y aura aussi l'affichage.
Et il y aura l'affichage. Bon, évidemment, si la législation évolue, ben, on fera évoluer notre règlement intérieur. Ça va de soi. Hein. Bon. Est-ce que vous avez des questions?
Oui.
Oui. Alors,
moi, il y a un truc qui m'a un peu frustré. Est-ce que c'est l'obligation? Je ne sais pas. C'est en cas d'absence, on doit préciser la cause de son absence. Non, parce que moi, j'ai voté, c'est dans le privé, en tant que syndicat, j'ai voté. On a fait enlever ça. On a, on doit justifier qu'on ne sera pas là, alors je ne serai pas là. Point. On va pas dire, bah, j'ai mal à la gorge, je vais dire qu'il est malade. Moi, je trouve que c'est... Bah, si, parce que la vie privée n'a pas à regarder son employeur, que tu ne sois pas là. Tu n'es pas là, tu n'as pas à dire à ton employeur, bah, écoute, aujourd'hui, je ne me suis pas levé, ou j'ai pris une cuite hier. Enfin, non, tu viens pas, bah, je ne serai pas là.
Ah, alors, c'est le mec qui ne sait pas où une cuite hier.
Laissez répondre Mme Javelot, je pense.
Jean-Claude, avant de... je laisse répondre Mme Javelot sur le sujet.
Si
parce que d'abord, c'est, on n'a pas le droit de demander à quelqu'un s'il a mal à la gorge ou s'il a une autre maladie. Et on va vous répondre.
C'est pour ça que je sais, Mme
Javelot. Tout agent empêché de se présenter doit prévenir ou faire prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais en précisant la cause de son absence.
C'est là que ça me frustre.
Ça veut dire je suis absent pour maladie. Et dans ce cas-là, je vais vous présenter un certificat médical où je suis absent parce que j'ai eu, par exemple, le décès d'un proche. Auquel cas, je vous présente un autre justificatif. C'est tout. Voilà.
C'est très macroscopique.
C'est pas le motif.
C'est pas le motif, c'est,
pas,
la,
voilà.
C'est la cause.
C'est pas la raison. Si c'est un arrêt médical, c'est pas la raison, la maladie et tout ça, non. C'est le type d'absence pour savoir quel document l'agent doit fournir. C'est tout.
De savoir qu'il est, ou qu'il est malade ou qu'il a un problème.
Il a une grosse flemme.
Certainement pas, que ce soit n'importe quel sujet, maladie ou quoi que ce soit.
Attendez.
Arrêt maladie.
Non, mais vous avez quand même des gens qui sont, je sais pas, qui ont des problèmes de santé, qui veulent pas que ça se sache.
On le demande pas. Un arrêt de travail.
C'est l'application de la réglementation. Un salarié malade doit présenter un arrêt maladie.
On peut être absent et c'est pas maladie. Si le père, la mère est morte ou je ne sais qui.
Ou pour cause personnelle.
Ah bah après, pour cause personnelle, si c'est absence non justifiée pour ces deux raisons-là, après c'est retrait sur salaire.
Ah oui, voilà, oui,
là, bien sûr. C'est pas pareil.
Voilà, d'autres questions ? Restons concentrés, s'il vous plaît. Évitons les dialogues à deux. Chacun doit bénéficier de ce qui est dit. Voilà.
Est-ce que...
Non, mais on a entendu ta frustration. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, et puis c'est la rédaction du comité technique paritaire.
Oui, voilà, c'est pour ça que je préfère avec Mme Javelot.
Donc,
si vous allez me répondre nickel là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais faire quand même de savoir si c'est pas nous qui avons un dit, ça comme ça. Après, moi, je sais que nous, moi, je l'ai voté il y a 15 jours dans la tête où je travaille. C'est l'employeur qui l'a rédigé à sa sauce, quoi.
Là, c'est extrêmement encadré. Bien, d'autres questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Alors, je rappelle que c'est le premier envoi. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite deux annulations de titres sur exercice antérieur. Donc le premier, un titre 1862, a été établi le 31 décembre 2016 à l'encontre de France Télécom au titre de l'occupation du domaine public communal par des équipements de communication électronique pour l'année 2016. Ce titre aurait dû être établi au nom de la société Orange SA en raison du changement de nom de la société France Télécom. Il convient donc de procéder à l'annulation de ce titre sur l'exercice précédent. Un titre de même montant a été établi le 5 avril 2017 à l'encontre de la société Orange SA. Bon, c'est, je pense, assez clair. Opération blanche. Donc, Monsieur le Président propose à l'Assemblée de procéder à l'annulation du titre 1862 du 31 décembre 2016 établi à l'encontre de France Télécom au titre de l'occupation du domaine public communal par des équipements de communication électronique pour l'année 2016 d'un montant de 1 758,14 €, de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au compte 673, titre annulé sur exercice antérieur, du budget de l'exercice en cours. Voilà. Sachant que le mandat modificatif, rectificatif, a été envoyé le 5 avril 2017. Question ? Bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Annulation sur titre, de titre sur exercice antérieur, deuxième chose. Donc, le titre 1500 a été établi le 6 décembre 2016 à l'encontre de Madame Leclerc Cicler Marina pour l'allocation d'un logement 19 rue des Remparts relative au mois de décembre 2016. Une erreur a été commise lors de l'émission de ce titre puisque Madame Leclerc Cicler Marina a quitté ce logement le 7 décembre 2016. Il convient donc de procéder à une annulation partielle de ce titre émis sur l'exercice précédent. Donc elle paie au prorata évidemment du mois de décembre et pas tout le mois de décembre, ça me semble quand même assez logique. Donc je propose à l'Assemblée d'exiger de Madame Leclerc Cicler Marina le paiement du loyer pour la location du logement situé au 19 rue des Remparts du 1 au 7 décembre 2016, de procéder à l'annulation partielle du titre 1501 du 6 décembre 2016 établi à l'encontre de Madame Leclerc Cicler Marina concernant la location du logement situé 19 rue des Remparts relative au mois de décembre 2016 pour un montant de 320 euros et 1 centime. De prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au compte 673, titre annulé sur exercice antérieur du budget de l'exercice en cours. Question ?
Avait-elle prévenu au moins qu'elle partait le 7 décembre ?
Ah oui, non, mais c'était c'est des personnes qui habitaient dans l'immeuble des Remparts qui a été repris par l'OPAC.
Oui. Oui, mais
c'est l'OPAC qui a décidé.
Est-ce qu'elle avait prévu qu'elle partait ?
Bah oui, puisque de toute façon, c'est l'OPAC qui...
Oui, parce que ça s'est pas fait comme ça.
L'OPAC Picardie Habitat qui relogeait les gens. Donc
voilà.
C'est en fonction des relogements qu'ils pouvaient faire que les gens partaient au fur et à mesure de l'immeuble.
Bien. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ensuite, point 8, location de salle. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. J'ai une demande à faire. On verra si tout le monde est d'accord, on la fera. Si tout le monde n'est pas d'accord, on fera ça à un prochain conseil municipal. Donc, je vous expose que pour faciliter l'organisation du travail et les horaires du personnel du château, il serait souhaitable de modifier les horaires de location des deux principales salles pour les locations du week-end, avec extension du vendredi, horaire inchangé pour les locations du week-end, samedi et dimanche. Voilà, c'est une modification en fait technique. Je crois qu'avant, on demande à modifier les horaires comme suit. Les horaires de location à partir du vendredi comme suit. Grande salle du château, location week-end du vendredi 11h au lundi 9h à compter du 1er octobre 2017. Avant, c'était 14h.
C'est ça, 14h. Madame, hein.
Et la même chose pour la salle de la ferme du château, sauf que pour la salle de la ferme du château, c'est à compter du 1er janvier 2018. Voilà.
Bon. Pourquoi cette différence ?
Je ne sais pas. Il arrive qu'on ne sache pas.
Ah bon,
donc je me tourne vers Madame Javot.
Parce qu'il y a déjà des contrats établis.
Ah d'accord.
Voilà.
Et est-ce que le prix va être modifié du fait que ça fait 2 heures de mieux ? Enfin, 3 heures de mieux ?
Non.
Non ?
Par contre.
Ma demande
est relative non pas au prix, mais à la caution. Donc c'était pas dans la délibération initiale. Si tout le monde est d'accord pour l'adopter, on l'adoptera. Il s'agit donc de la caution, donc pas de ce que les gens paient, mais du montant de garantie qu'ils versent. Jusqu'à présent, dans la grande salle, la caution est de 500 euros. Dans la salle de la ferme, elle est de 200 euros. Aujourd'hui, ces chiffres, si ça se passe pas bien, sont notoirement insuffisants. Et typiquement, je vous propose, donc après... d'adopter une caution de 2000 euros pour la grande salle. Attendez, je vous rappelle que le chèque n'est pas encaissé. Hein. Si les personnes cassent 2000 euros de matériel, je trouve normal qu'ils paient 2000 euros.
Ah oui,
ils cassent 2000 euros.
Voilà.
Là, c'est une...
C'est à déterminer. De toute façon, on peut pas prendre une caution comme ça sans spécifier ce que l'on prend. Quoi. S'il y a des travaux, s'il y a de la casse, par exemple, il faut justifier par une facture de, de réparation, on peut pas, une caution, on peut pas retirer.
Donc
s'il
y a 1000 euros,
à la tête du client, une caution ou pas. Hein. C'est...
Voilà, on retient une partie de la caution. Et pour la salle de la ferme, de la passer de 200 euros à 1000 euros. Encore une fois, c'est une caution. Tant que, et c'est les 90, plus que ça, 95, 97% des cas, ça se passe très bien. Maintenant, parfois, nous avons des gens qui viennent louer, qui habitent un peu loin de Verberie, on ne connaît pas très bien, et on n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise.
Voilà. Exactement.
Comment ?
Ça sensibilise.
Tout à fait. C'est comme tu prends une voiture, tu vois la caution que tu laisses, c'est vrai que c'est et tu laisses 7000 euros de caution sur la berline.
Alors, ça fait réfléchir. Avant de poursuivre la discussion, je vais demander. Monsieur Francis, avant de poursuivre la discussion. Est-ce que, alors après sur le montant, etc., on va continuer et répondre aux questions, mais déjà sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce changement du montant de la caution dans la délibération ? Hein ? Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement. Exactement, on ne leur prend pas plus d'argent. S'ils se conduisent correctement, tout va bien.
C'est vrai, quand on ouvre une voiture, on met caution.
Et puis moi, tu te dis, bon, il faut que je fasse gaffe quand même, quoi. Parce que là, 500, on se dit, bon, bah, c'est 500 euros, il peut tout broyer, c'est pas grave.
Question ? Question ?
Après, il reste la valeur de la caution, où ce soit 1000, 1500 ou 2000, ça va. Ce qu'on va décider pour la grande salle.
Ah, c'est 2000.
Oui, non, mais. Est-ce que. En espèce.
Adressé à France et Espagne.
Est-ce que 2000, c'est pas.
Non.
Moi, ça me choque pas.
C'est dissuasif.
Regarde, quand tu loues une grosse bagnole, tu laisses entre 7 000.
Attendez, je donne la parole.
C'est pour que ce soit.
Oui, non, mais j'ai compris. Ça, j'ai compris.
Zéro.
Monsieur Fleury.
Zéro. Oui, c'est une question juridique. À partir du moment où on n'a pas le quorum mais qu'il y a des pouvoirs, est-ce qu'on a...
Enfin, on a le quorum, mais il y a des pouvoirs.
Mais il y a des pouvoirs, et les pouvoirs, en fait, les gens n'étant pas au courant de la question, sur une question financière, est-ce qu'on a le droit de rajouter, étant donné que les pouvoirs qui ont été donnés à certaines personnes sont, ne sont pas au courant de la question. Et sur un plan juridique, je pose la question. Je crois que quand c'est une question financière, c'est le cas. Je crois qu'il faut que ce soit établi et que ceux qui ont donné le pouvoir soient au courant avant.
Alors,
ça reste à vérifier. Hein.
Bon, c'est une. C'est à la limite d'une question financière parce que. Je rappelle qu'on n'encaisse pas le chèque hein, quand ça se passe bien. Voilà. Ensuite, c'est la raison pour laquelle je demandais si tout le monde était d'accord, en fait, en deux temps. Premier temps, est-ce que tout le monde est d'accord pour ajouter cet élément à la délibération ? Après, si quelqu'un fait un recours, bon, ben, on modifiera, mais...
Non, mais c'est pas nous qui pourrions faire un recours. Mmh. C'est les personnes
oui, mais
qui pourraient faire un recours en disant bah, écoutez, ça n'était pas. La déclaration n'était pas légale, étant donné que tu.
Mais on assurera le recours.
Bon, maintenant,
c'est mineur.
Le risque est mineur. Hein.
Oui, bah, c'est pour ça. C'est pas.
Ça me semble. On fait rien de délirant. Enfin, tout à l'heure. Hein. On essaie de protéger la collectivité, mais je comprends effectivement le souci qui est là. Ceci dit, derrière le droit de recours, il y a un délai qui, si je ne me trompe, est de 2 mois. C'est ça, madame ? Qui est de 2 mois. Voilà. Bon. Est-ce que, on va le poser. Est-ce que... Et je comprendrais tout à fait. Hein. Donc, oui, Marie-France.
Au mois d'août, on a eu un mariage là au château. Et comme il faisait beau, on avait les portes ouvertes. Il y a des gens qui jouaient au bout et puis d'autres gens qui étaient là, ils rentraient pour aller aux toilettes. S'il passe quelque chose pendant ce temps-là.
Ouais. Ben, je crois qu'il faut faire un rappel sur tout ça. Ils n'ont pas à aller aux toilettes à l'intérieur du château pendant que ce dernier est loué.
Ils peuvent piquer les pipites. bouteille.
C'est une remarque.
Il est certain que lorsqu'il y a un mariage, il faudrait que...
Mariage ou autre. Hein.
Ou autre. Hein. Le samedi ou dimanche, quand les gens sont là, il est certain qu'il faudrait instituer ce que les boules ne participent pas à leur jeu devant le...
Mais
ils
jouent pas
devant, la terrasse. Ouais, enfin, oui, derrière, mais même derrière, que ça soit quand même au jour du mariage.
Je suis d'accord.
Non, ils ont, ils ont l'avant.
Oui, non, mais je parle, il y a la terrasse derrière. Et la plupart du temps, les gens qui jouent sont sur la terrasse. Et ça gêne les gens.
Ils n'ont pas les escaliers.
Voilà, ils ont les escaliers et ils jouent aux boules. Bon, c'est, ça peut être un peu dérangeant pour les... Ça peut être un peu dérangeant pour les gens qui ont loué le château.
Évidemment.
Mais le problème que posait Marie-France Merlin n'était pas vraiment celui-là. Le problème, c'est des boulistes qui rentraient, tu me dis si je me trompe, hein, qui rentraient dans le château.
Ah, mais ça, c'est de la responsabilité des gens qui ont loué le château. Ils l'ont loué, donc c'est à eux de gérer l'intérieur. Il faut fermer les portes.
Ceci dit, ça ne va pas nous empêcher de faire un rappel aux associations. Donc je me tourne vers Madame l'adjointe à la culture et à l'animation pour qu'effectivement un rappel soit fait, voire un rappel écrit que je suis prêt à signer parce que ça c'est pas normal. On mélange pas tout.
Les gens qui jouent à la pétanque dans l'absolu, ils vont pas quand même aux toilettes quand c'est pas ouvert le château, ils vont pas, ils se débrouillent.
Exactement. Ils vont à la salle, oui.
Ils vont à la salle de fête. Mais tu passes par l'extérieur. Tu passes par l'intérieur de la tour de neuf, tu passes à l'extérieur, c'est par le plancher.
Bien, donc nous allons faire un rappel à... Bon. Il faut dire que c'est quand même la pétanque qui est très souvent à l'arrière du château, les autres associations moins.
Maintenant, les pétanques, ils ont leur sanitaire qu'ils n'avaient pas auparavant.
Non, mais bon,
je pense qu'il faut faire un rappel quand même.
Oui, bien sûr.
Parce que après, ils sont dans la verte, là, tout autour, et par facilité, il y en a qui vont peut-être... Voilà. Ceci dit, je reviens à ma question sur la caution. Donc... est-ce que quelqu'un est opposé au fait qu'on ajoute ce point-là à la délibération, même si, comme le dit M. Floury, il a tout à fait raison, ça apporte un point de fragilité.
Moi, sur le principe, je suis d'accord. Parce que ça va leur permettre de faire...
Très bien. Donc, maintenant... Enfin, je ne pense pas me tromper en disant que tout le monde est d'accord. Bon. Maintenant, deuxième étape, sur les montants, on propose de voter. Donc 2000 euros pour la grande salle, 1000 euros pour la salle de la ferme. Donc deuxième temps de la manip, nous votons pour les montants. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Ok. Adopté par... Nous sommes donc 18 et combien de... 24 votants, donc par 20, il n'y avait pas de pouvoir hein, dans ceux qui se sont abstenus. D'accord, mais tu
fais jouer ton pouvoir ou pas?
Non. D'accord, donc c'est bien 4. Bien. Je vous propose de passer au point suivant, résidence intergénérationnelle. Alors, Monsieur Leblanc, pendant on va vous projeter un petit peu le plan. Il s'agit de quoi? On vous a transmis la convention, qui fait un certain nombre de pages et qui a 11 annexes. Cette convention, elle concerne une partie de la voirie de la résidence intergénérationnelle qui sera rétrocédée. Alors l'objet de la convention, c'est d'abord de dire que oui, cette voirie sera rétrocédée. Et la deuxième et le reste de la convention, ça consiste à dire, puisqu'elle va être procédée, nous imposons un cahier des charges qui concerne la construction de cette voirie et de tout ce qui est, de tout ce qui est afférent à cette voirie. C'est-à-dire la voirie en elle-même, mais aussi les réseaux, l'éclairage public, la téléphonie, le gaz, les espaces verts, le mobilier urbain s'il y en a. Il s'agit d'imposer ça. Donc la convention de transfert, elle est bien sur ces deux aspects. L'aspect qui fait qu'il y aura effectivement rétrocession. Et d'ailleurs, la convention de transfert sera intégrée au permis de construire. Donc après, elle a un aspect tout à fait réglementaire. Elle fait partie du permis de construire. Ouais, mais là, ça va. Hein. Ouais, on voit bien.
Je ne sais pas pourquoi, ça fait souvent.
Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Voilà, c'est... Pardon ? Alors... J'attends que monsieur... Non, c'est l'autre.
C'est l'autre ?
Ah oui. Voilà. Cette convention de transfert... vous y êtes ? C'est bon, là, hein ?
Oui, bon, on colle le morceau de droite à gauche, et puis...
Non, si vous mettez sur la petite flèche, je pense que vous pouvez aller d'un côté, non ?
Ouais, mais... Non, sur mon écran, c'est parfait, mais là-bas...
Bon, est-ce que tout le monde voit, là ?
Oui.
Donc, simplement, je vais y aller avec mon gros doigt. Voilà, j'y suis. Donc, la rue des Remparts est quelque part par là, là. Là, on a une entrée dans la Sente. Et là, on arrive sur la parcelle 136. Toute cette partie-là, là, tout ça, ça appartient à la commune, soit à titre d'espace privé, soit à titre d'espace public. Voilà. Par contre, la partie de 216 mètres carrés qui est là, elle est sur la parcelle 136. D'accord ? Donc, c'est bien de cette partie-là qui va être rétrocédée. Et c'est sur ça qu'on applique le cahier des charges. Ceci dit, ces parties-là sont à nous. Donc, de toute façon, ce qui sera fait par le constructeur sur ces parties-là, on doit donner notre autorisation. Et déjà, notre autorisation, en gros, et ça paraît logique, c'est qu'on impose le même cahier des charges. On va imposer un cahier des charges ici et un cahier des charges différent ici. C'est le même cahier des charges pour l'ensemble. Néanmoins, la convention de transfert, elle porte sur ça. Parce que là, s'il n'y a pas de convention de transfert, à la limite, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Tandis que sur l'espace public, et là, non, même, il n'y a pas de convention de transfert, mais de toute façon, il est obligé de demander l'autorisation de ce qu'il va faire. Ça va. Bon. Voilà. Donc, voilà pourquoi on fait cette convention de transfert qui, encore une fois, sera intégrée au permis de construire. Donc, voilà. Après, ça devient une obligation. Alors, parmi les annexes, un certain nombre sont de notre compétence. Donc nous, quand nous validons là, nous validons les annexes pour lesquelles nous avons la compétence. Un certain nombre d'annexes.
Ça a été débranché.
Ah, ben, ça lui fait vraiment pas. Il faut que tu changes d'appareil. Il est obsolète.
Non, il a été coupé quelque part.
Il a vécu, là.
Il est bien branché.
Il a rendu l'âme.
C'est pas grave. C'est bon, je pense. Tout le monde a vu où ça se situait. Voilà. Seule chose, c'est que je ne sais plus où j'en étais dans mon discours. Mais.
Dans les bords.
Bien joué, monsieur Le Blanc.
C'est que l'on avait nos conventions à nous, qui avaient deux conventions qui étaient validées par
la France. Et ça nous évite de nous retrouver avec des gens qui disent. Attendez, maintenant on l'a construit, on met des barrières, on est chez nous, c'est terminé. Là, la convention est dedans, ça revient systématiquement dans l'espace public. Comment ? Il prend...
Non, parce que le chemin, il va venir tout le long du...
Ben, il va jusqu'à un petit peu plus loin, il comprend la parcelle 136. qui est, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Enfin, le problème, c'est que maintenant qu'on n'a plus de carte, le jusqu'au bout, c'est toujours un truc un peu difficile. Quoi.
Mais tu prends le chemin,
à un moment,
il tourne à droite.
Oui, mais c'est, ça arrête bien avant ça. Ça s'arrête au niveau de la construction. Enfin, ça va jusqu'à la limite de la construction. Ça s'arrête à ça.
Bien vu.
Ça ne va pas jusqu'au bout, comme tu disais.
Ah oui, d'accord.
Hein, alors, comme je disais, ça y est, j'ai retrouvé où j'en étais. Je disais que... oui, on vote pour le texte principal et pour un certain nombre d'annexes. Il y a deux annexes pour lesquelles nous ne sommes pas compétents. C'est l'annexe eau usée et l'annexe alimentation en eau potable, puisque c'est la compétence du CIVOM. C'est pour ça que le CIVOM votera également et signera, pardon, à voter et signera, et la présidente signera également cette convention. Sur les annexes, ces deux annexes-là, qui concerne des compétences qui vont être transférées à l'agglomération de la région Compiègne pour l'alimentation en eau potable au 1er janvier 2018, 2019, pardon, et pour l'alimentation, pour les eaux usées au 1er janvier 2018. D'accord ? Donc, on a de toute façon associé l'agglomération de la région de Compiègne à la rédaction de ces annexes pour que ils ont déjà l'habitude, ils ont des tas de choses qui s'imposent. C'est voilà. Hein. Mais on impose en qualité, si vous regardez dans les annexes, on impose de la fonte. Vous voulez nous mettre du PVC, on leur a dit qu'on ne voulait pas. C'est de la fonte ou du gras. Voilà. Et la rétrocession aura lieu le jour où tout sera recété. C'est le bon terme recété. Non, c'est pas le bon terme.
Rétrocédé.
Non. Tout sera rétrocédé le jour où la recette des travaux sera faite.
La réception.
Voilà, c'est terme. Je savais que je n'employais pas le bon terme. La réception des travaux sera faite. Ouais, bon, recette, ça existe quand même. Je lui ai donné un nouveau sens. Mais bon, on va en rester là. Voilà. Est-ce que sur cet aspect-là, il y a des questions ? Parce qu'on vous a transféré, je ne vais pas relire les X pages de la convention. Et de ses annexes. Bon, la surface, c'est 216 mètres carrés, hein, donc c'est bien la partie que je vous ai montrée. Bien. Sur cette partie, vous posiez l'autre fois la question, Monsieur Floury, donc j'étais recherché dans le permis de construire qui avait été accordé. C'est dommage, ça s'est arrêté. Mais je confirme bien qu'il y avait trois bâtiments qui s'appelaient d'ailleurs les Dahlias, les Églantines et les Fuchsias pour donc 108 logements, puisque c'est des blocs de 36. Voilà. Bon, je vous propose maintenant de passer au vote. Oui.
Moi, je m'abstiendrai parce que j'ai toujours dit que bon, c'était surtout les habitats à loyer modéré. Je considérais que par rapport aux deux, aux trois bâtiments qui étaient là, qui sont des résidences privées, auxquelles on a vendu très cher des appartements à 2 850 € le mètre carré. Le promoteur a toujours dit qu'il n'y aurait pas de HLM, parce que bon, les résidences intergénérationnelles, c'est quand même l'habitat à loyer modéré. Je suis pour l'habitat à loyer modéré, mais là, je considérais qu'il y en avait déjà suffisamment. Et par rapport à 175 logements, je crois, à peu près.
Pardon ?
Je dis qu'il doit y avoir à peu près 75 logements.
Où ?
Les propriétaires qui sont juste derrière. Ouais.
Il y a assez des blocs de 36. Donc deux blocs de 36, ça fait 72.
Ouais. Là ?
Attendez, sur les constructions qui sont construites, vous évoquez les prés d'Aramon.
Oui. Ouais.
Donc c'est des trois blocs de 36 qui fait 108. Ouais, donc vous avez deux blocs qui sont là.
Il y a 108 personnes qui seront... sur lequel on a vendu des appartements, sur lesquels on n'a pas tenu parole. Bon, moi, après, C'est pour ça que je m'abstiendrai, moi, sur la
recommandation. C'est le... On n'a pas tenu, parole. C'est le promoteur.
C'est vous. Non, mais je ne dis pas que c'est vous qui avez pas tenu.
Bon.
C'est le promoteur. Qui n'a pas tenu parole. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours défendu les propriétaires qui étaient là, puisqu'on leur avait dit que tout serait en résidence. Hein, et qu'il y aurait même derrière des petites maisons. Bon.
Sûr. Alors.
Ouais. Mais le propriétaire me l'avait déjà demandé, hein, je lui avais déjà refusé en son temps.
Mais le jour où ça a été construit, on ne s'est pas posé la question non plus de savoir si les gens qui habitaient là avant, quand ils se sont retrouvés en face avec trois bâtiments comme ça a été fait, si ça gênait les gens et si ça ne dévalorisait pas les maisons qui étaient construites avant. Les gens qui ne peuvent plus se mettre dans leur jardin, par exemple. Voilà. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, les propriétaires qui ont acheté font la vie parce que, soi-disant, ça dévalorise leurs biens, mais ils ne se sont pas posé la question à ce moment-là, quand ils ont acheté, si ça n'avait pas dévalorisé les biens des gens qui avaient déjà construit.
Ah, il va y en avoir beaucoup de dévalorisés.
Ouais, pas trop,
je pense.
D'autant plus que derrière, il n'y a aucune... Il n'y a quasiment aucune sortie.
Mais non, est-ce qu'on s'en occupe des gens?
Pardon.
Ouais. Non, mais je veux dire.
Attendez.
Ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres.
Ouais, on s'en occupe dans le sens où l'information.
Oui,
mais c'est pas notre parole. C'est pas notre parole à nous.
Bon, à partir du moment où on dit je vous vends des appartements à 2 850 € le mètre carré, ce qui n'est quand même pas donné. Hein, et qu'après, entre les deux
habitants. Est-ce que ces habitants ont un écrit? La réponse.
Vous savez, les promesses orales ont plus autant d'importance que les promesses écrites. Hein.
Attention, alors, monsieur Fleury, il y a aussi des opérations où on a vendu certes à plus de 2 800 € le mètre carré, mais c'était dans un but aussi bien précis pour certains des propriétaires qu'il y ait des opérations de défiscalisation. Donc ça va au-delà d'acheter un appartement classique. Donc c'est un montage financier particulier. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient au moment de l'achat. C'est-à-dire que quand on paye ce prix, on est conscient puisque c'est une opération spécifique de défiscalisation.
Non, on est d'une parole. Après, on peut trouver toutes les excuses.
C'est pour répondre à l'argument des 2 800 €.
C'est la parole du promoteur. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui ont acheté là, ils doivent aller voir le promoteur, mais pas venir voir la mairie pour ça.
Je vous propose.
C'est quand même plus élégant.
Si, par contre, on peut répondre quand même que les personnes n'ont pas. Il y a eu des réunions publiques, il y a eu des.
Ah, mais c'est exactement ça. Les gens sont au courant du projet, ça se construit, ça se fait, ça avance avec quand même, je pense, une certaine transparence. Donc, s'occuper des gens, c'est aussi ça. Ça en fait partie. Ensuite, pour une résidence intergénérationnelle, l'endroit est quand même près du centre-ville, est quand même très très intéressant. Sur cet aspect-là. Mais on rediscutera de ça en un autre temps. Aujourd'hui, on est surtout réunis sur la délibération porte effectivement sur la convention de transfert. Et dans le cadre où on construit et où le permis de construire est validé, avoir une convention de transfert, il y aurait peut-être d'ailleurs dû en avoir auprès d'Aramon quand ça a été construit. Ça aurait peut-être évité des choses.
Dans les collectifs en leur temps.
Bon, maintenant, c'était un autre temps, ça se faisait peut-être pas. Donc, voilà. Toujours est-il que la convention de transfert en elle-même, c'est de toute façon une bonne chose dans le projet. Je pense que là-dessus, on peut être d'accord. Voilà. Donc, maintenant, chacun est libre de son vote, bien évidemment. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 abstentions. 24, 16 pour. Bien. Je propose maintenant de passer à la suite. Partie numéro 10. Donc là, on est sur GRDF, le compte-rendu de l'activité de concession. Si vous pouvez me passer le document, madame. Bon, très honnêtement, sur l'année 2016, compte-rendu donc de l'activité de la concession GRDF, il ne s'est pas passé énormément de choses, que ce soit dans le domaine patrimonial. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Je cherche la page en question. Voilà. La longueur totale des canalisations, bon, je ne vais pas vous donner les chiffres, ça n'a pas beaucoup varié. Tout est resté à peu près identique. Nous avons par matière quand même près de 8 km qui sont en polyéthylène, 12 km qui sont en acier et 81 mètres qui sont dans un autre matériau. Bon. Concernant l'indice de connaissance du patrimoine, on est à 75 sur 100. Donc il y a des progrès à faire, mais c'est des progrès à faire par GRDF, hein, pour qu'il avance. Sur la sécurité des réseaux, ben, on voit que le nombre d'interventions d'une année sur l'autre reste identique. On a quand même eu, je vois, trois interventions classées en dommages. Ça a dû intervenir, il y en a au moins deux qui sont intervenues pendant les travaux rue de la République, puisque il y avait des câbles qui ont été... Enfin, des tuyaux de gaz, des alimentations qui ont été coupées avec la grue. Je rappelle que dans le premier cas, le tuyau était à plus de 3 mètres de l'emplacement indiqué. Donc c'est quand même assez compliqué dans ce cas-là de ne pas faire d'erreur. Voilà. Toujours est-il que bon, il y a eu un incident, dommage, ça a été réparé. Donc tout ça a été fait. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est bilan financier de la concession. Ce document est évidemment consultable en mairie. Tous ceux qui veulent lire ce document qui fait 70 pages sont les bienvenus. Voilà, ça c'est le premier document. Deuxième document sur l'activité du SE60. Donc le SE60, pareil, le document est donc téléchargeable sur le site. Donc là, tout le monde peut aller chercher sur le site du syndicat d'électricité 60, SE60. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas eu d'évolution extraordinaire sur l'électricité. On voit cependant que le syndicat SE60 développe ses compétences dans au moins deux domaines. Un domaine qui concerne ce qui est borne de recharge électrique pour les véhicules et un domaine qui est la maîtrise de l'énergie. Voilà, où il développe ses compétences. Je crois qu'il faut regarder de près ce qui se fait. On pourrait en bénéficier, mais il y a aussi des choses qui se font dans l'agglomération de la région de Compiègne. Donc voilà, il faut mettre tout ça face à face pour voir ce qu'il est pour nous le plus intéressant de faire. Nous, ce qui va arriver dans tous les cas, c'est une borne de recharge. Je vous rappelle, on l'a votée, sachant qu'elle ne nous coûte pas un euro. Cette borne de recharge, donc déjà, son alimentation est installée. C'est ça. Et elle sera située sur la place du marché, au bout à gauche, près donc de la rue des Remparts. Voilà. Ça permet de recharger deux véhicules.
Est-ce qu'il n'y a pas une place handicapée?
Non.
Ah, donc la place, elle est supprimée, la place handicapée qui était...
Elle est supprimée.
Il y en a d'autres qui vont être mises dans le futur, certainement.
Oui, bien sûr.
On va sans doute faire un retraçage de tout ça.
Oui, non, c'était juste pour me situer.
Mais il en reste, des places handicapées. Il y a près de la maison, il en reste. Donc voilà, cette borne de recharge devrait être installée. De mémoire, ça doit être installé à la fin du mois.
Même pas les entretiens.
C'est ça, hein. Bon, ils ont peut-être un peu de retard, mais ça doit être installé à la fin du mois. Bon, ça rentre dans le cadre de la dynamisation du centre-ville, en fait.
Comment ça marche, alors, le système de recharge ?
Non, ça ne coûte rien.
C'est un robinet.
Pardon ?
Comment ça fonctionne, le système de recharge ? La personne met sa voiture,
elle se branche. Et puis ça fonctionne.
Voilà. Voilà.
Attention, ouais. Michel, nous allons surveiller si tu passes un câble.
Lui va tirer une rallonge.
À travers le parking.
Ouais, calme pas toi.
Ah oui, tu
peux pas. Ah oui, attendez. Chut. Monsieur Leblanc.
Il y a un capteur au sol, sous l'emplacement du véhicule, qui détecte la présence du véhicule. Et si le véhicule n'est pas branché dans un laps de temps, je ne sais plus, c'est quelques minutes, hein, normalement, ça doit appeler les services de police pour dire qu'il y a une personne qui est sur cette place de stationnement qui est réservée à un véhicule.
Ah d'accord.
Vous verrez, c'est des petits ronds, dans vous, si vous regardez déjà.
Ah, mais ça, ça je sais, partout, hein. Ouais. Et c'est par, comme ça partout. Il faut mettre une signalité particulière pour que les gens le sachent.
Ah, oui, bah, de toute façon,
il y a une signalité.
Stationnement,
c'est réservé.
Il y a une interdiction de stationnement en véhicule électrique.
Ah, ouais, d'accord.
Bon. Bien. Je vous propose de reprendre notre travail dans, puisqu'il nous reste les questions diverses. Donc, dans les questions diverses, j'ai eu deux questions de M. Patrick Fleury. J'ai eu une question de M. Michel Biaise. Et j'ai eu, dans un premier temps, trois thèmes de M. Lamy. Et dans un deuxième temps, une question très générale. Donc, voilà, les questions qui sont posées ici doivent quand même être précises. On ne va pas y passer trois heures. Donc il faut effectivement, j'attire l'attention de chacun, vous envoyer des questions suffisamment précises, d'abord parce qu'il faut pouvoir, dans les délais, 48 heures, et ensuite parce qu'il faut pouvoir les préparer, et il peut y avoir d'autres choses à faire au niveau du personnel municipal ou moi-même en termes de rendez-vous, et ensuite effectivement, bon, ça ne doit pas prendre 8 jours à être préparé. Voilà, donc je vais répondre en fait aux questions de M. Fleury et à la question de M. Braillet. M. Biaise, pardon, qui porte sur M. Braillet, justement. Enfin, sur le moyen de locomotion avec lequel il se déplace. Donc, la première question de M. Fleury. Que s'est-il passé avec la famille Roche et leur fils Gauthier pour arriver à un conflit aussi important? Alors, je vais faire court. Je ne tiens pas à exposer des choses qui rentrent dans des aspects sensibles ou très personnels, hein, pour la sérénité de la famille. Pour moi, l'affaire a commencé avec un incident qui s'est déroulé dans le cadre scolaire. Il y a eu, donc aux alentours du 15 mai, il y a eu ensuite... Ensuite, il y a eu une équipe éducative qui a été faite pour régler ce problème. À l'issue de l'équipe éducative, je dirais que tout allait bien. Le compte-rendu qui en a été fait par l'éducation nationale, évidemment, ne satisfaisait pas M. Roche. Ce sur quoi, ensuite, une plainte a été déposée dans laquelle un de nos personnels était mis en cause. Cette plainte a d'ailleurs été classée par le procureur de la République, sans suite. Parce qu'il n'y avait pas, à suivre, il faut être clair. Ensuite, l'inspecteur de l'éducation nationale a organisé lui-même une réunion, à laquelle j'ai d'ailleurs participé au titre d'employeur. C'est ce qui m'a amené à... Enfin, c'est pour la raison pour laquelle j'ai participé. Donc, je ne parle pas de ce qui s'est dit pendant la réunion. Mais il faut savoir que cet enfant est quand même assez turbulent. Et parfois difficile à contrôler. Voire très difficile. Il y avait en parallèle l'inscription, effectivement, qui se faisait au centre de restauration scolaire. Les parents amenaient leurs inscriptions. j'ai demandé, moi, au personnel communal, de demander à M. Roche de prendre rendez-vous avec moi. De ne pas prendre le dossier immédiatement, mais de prendre rendez-vous avec moi, tout simplement parce qu'il fallait qu'on voit un certain nombre de points. On ne peut pas mettre en demeure, il y a d'autres enfants aussi, il y a des encadrants qui étaient là. Suite à ça, lors de cette réunion, j'ai été d'ailleurs un peu agressé sur quelque chose que je trouvais assez normal, demander à voir quelqu'un quand il y a une difficulté. Toujours est-il que les choses se sont quand même un peu apaisées. Et puis, le 8 juillet, j'ai rencontré M. Roche avec, d'ailleurs, la référente du centre de restauration scolaire, qui, entre autres, est Odile. La discussion a été très calme, très sereine. Nous lui avons d'ailleurs laissé le choix d'une inscription au centre de restauration scolaire, bien sûr, à la condition que le règlement soit respecté. Et quand on parle du règlement dans ce cadre-là, il s'agit du comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis du personnel encadrant. Ça paraît quand même... voilà. Suite à ça, il y a une deuxième solution qui avait été évoquée, qui avait d'ailleurs déjà été évoquée dans d'autres endroits, c'est de faire prendre à cet enfant le déjeuner à l'extérieur, tout simplement parce que ça permettait de faire redescendre la tension, peut-être, là, plus loin, tension, pendant la période de midi.
Ce qui a été fait au dernier trimestre.
Ce qui avait d'ailleurs été fait au dernier trimestre. Nous avons donc laissé le choix avec une décision pour fin août à prendre par le papa. Dans un mail du 15 juillet, il nous a annoncé de manière tout à fait paisible qu'il avait fait son choix. Et que donc, il ne souhaitait pas inscrire son fils au centre de restauration scolaire. Point final pour moi. J'ai donc été très surpris, évidemment, quand j'ai reçu le 31 août un courrier adressé à un certain nombre de personnes, courrier que je ne lirai pas, néanmoins, enfin, je vais dire après, adressé au président de la République, à Madame Macron, à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, à Monsieur Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, à Monsieur Philippe Marigny, sénateur maire de la ville de Compiègne, à Monsieur Éric Woerth, député et maire de la ville de Chantilly, à Monsieur Stéphane Chéagis, responsable antenne réseau Bulloise, et à Monsieur Christophe Lamy, conseiller municipal de la commune de Verberie. Même là, j'avoue que ça m'a un peu interpellé. Mais bon. Chercher à comprendre. Bien, on se pose un certain nombre de questions. Donc, voilà, je n'ai pas l'intention de lire le courrier là. Ceci dit, comme il a été adressé à M. Christophe Lamy, si des conseillers municipaux veulent en prendre connaissance, pourront en prendre connaissance. Bien, maintenant, il faut savoir que, évidemment, dans ce courrier écrit par une personne, un certain nombre de faits ne sont évidemment pas mentionnés. En particulier, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a laissé le choix. D'ailleurs, le mail, je l'ai, hein, le mail de juillet, je l'ai, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Tout ça a été fait de manière, je crois, assez... justement, avec beaucoup d'attention, beaucoup de... Et très honnêtement, nous, la meilleure solution, parce que les problèmes, on a parlé des problèmes au centre, je ne rentrerai pas dans le reste du détail, c'est le temps scolaire. Mais en gros, un enfant comme ça, il monte en tension pendant la matinée. Quand il sort, il est chaud, bouillant. Et si la tension ne redescend pas, l'après-midi, il peut devenir catastrophique. Donc, la solution qui avait été préconisée, qui était celle employée dans le dernier trimestre 2016, semblait donc une solution raisonnable. Voilà comment ça s'est passé.
Quel âge a cet enfant-là ?
Il est en CM1.
Il a 10 ans.
Alors, on a d'ailleurs, je n'ai pas le droit de refuser. Voilà. Ceci dit, si les gens ne respectent pas le règlement, on peut effectivement les exclure. Ceci dit, on est toujours particulièrement attentif à tout ça. On essaie vraiment de gérer les problèmes. Et d'ailleurs, C'est ce qu'a essayé de faire l'équipe durant tout le temps où il était là, de gérer les problèmes. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Il y a des problèmes, il y a des gens spécialisés pour le faire. Ce n'est pas un déshonneur. Il y a des gens spécialisés pour le faire. Néanmoins, et je le répète sans aucun problème, on ne lui est pas refusé, on lui a laissé le choix. Donc la lettre est d'autant plus difficile à comprendre.
Mais dans sa lettre, il demande l'intégration de l'enfant à la cantine.
Non.
Non, non, c'est non. Juste pour
je vais vous la faire, je vais vous la faire très très courte en trois mots. Elle fait trois pages. Je suis un individu ignoble qui ne s'intéresse pas aux enfants qui ont des handicaps et je suis un sale type. Voilà. Les mots ne sont pas les mots employés. Hein. Je le dis très honnêtement. Ce n'est pas ces mots-là qui sont employés. Hein. Mais le fond de la lettre, c'est ça. Voilà. Je suis un type indigne qui ne prend pas en compte ces problèmes. On a essayé des problèmes, les prendre en compte en permanence. À un moment donné, vous ne pouvez plus.
Et il faut préciser qu'on n'a pas de
médical. Il y a un point qui médical. Prend en considération, ce sont les autres enfants. Les autres enfants, quand ils se font agresser physiquement, qu'est-ce qu'on fait?
Je me permets juste d'intervenir.
N'est pas handicapé.
C'est scolaire, donc c'est très difficile, c'est confidentiel, mais sans en dire trop, en fait, apparemment, cet enfant aurait un souci médical. Sauf qu'il n'y a pas de document concret qui officialise ce souci.
Je n'ai vu aucun document signé. Voilà, ceci dit, je n'ai pas forcément à le voir, comme non. Tu l'as justement rappelé tout à l'heure. Non. Bon, voilà, mais les gens vous disent que... Bah ouais, ils disent que...
Après, si t'es de bonne foi, tu vois. Si t'es vraiment un cas comme celui-là...
C'est un handicap, il faut quand même que tu sois au courant,
un handicap,
pour pouvoir...
Quand
t'as
sur les autres enfants.
Il y avait les mêmes problèmes. D'ailleurs, l'éducation nationale a des process pour traiter tout ça, avec des fiches à remplir pour avoir une aide qui vient, etc. Et voilà. Voilà, le process n'a pas été de la volonté de l'éducation nationale. Hein. Elle voulait appliquer le process. Voilà. Donc je crois qu'il faut, voilà, vis-à-vis de tout ça, il faut prendre un peu de recul. Parce que moi, je comprends que des parents sont dans la difficulté, dans la douleur. C'est vrai. Mais bon, oui. Et encore une fois, on a essayé de le prendre en compte au maximum. Et je pensais à la sortie de la réunion de l'équipe éducative, la première, je pensais que le problème était réglé. Tout le monde était prêt à faire des efforts, tout le monde en faisait déjà beaucoup, était prêt à essayer de continuer à faire des efforts, et là, dépôt de plainte, etc. Enfin voilà, ça devient compliqué quand même.
Dans les derniers temps, d'ailleurs, un adulte dans toute l'équipe ne pouvait s'occuper que de ce enfant.
Par contre, est-ce que puisqu'il est scolarisé, est-ce qu'en classe il était aussi
Je ne rentre pas là-dedans. Là, ça rentre dans le monde. Je suis désolé, mais là, je ne veux pas intervenir là-dedans. C'est si la question, d'ailleurs, elle n'a pas à être posée. C'est le problème de la directrice et du monde de l'éducation nationale. Donc, je ne réponds pas à cette question.
Mais il n'est plus scolarisé. Les parents ont fait le choix de scolariser dans un autre établissement.
C'est ce qui est annoncé dans la lettre. Voilà, je pense que ça répond à votre question.
Ce genre de courrier envoyé à tout le monde, comme ça, ça débouche à quoi aussi ? Les gens viennent vers toi, comment ça se passe ? Parce que finalement, c'est...
J'ai eu deux cas. J'ai eu un autre cas du même type. Ouais. Enfin, c'était pas le même, mais bon, avec lettre à... Bon, à un moment donné, on m'a dit, en gros, regardez bien la situation. Mmh. Ben oui, on l'a déjà bien regardé. Voilà. Ouais, parce que et d'ailleurs, le premier cas, très honnêtement, dans le premier cas, je ne veux pas dire qu'il sait ni rien, mais le cas s'est réglé comme on le pensait, etc. Et j'espère que maintenant, l'enfant qui n'est plus en primaire a retrouvé un cursus normal. Voilà. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, avant d'exclure quelqu'un de centre de restauration scolaire, vraiment, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est arrivé très peu de fois depuis 2014. Très peu. Voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question. Attendez, je retrouve M. Foury. La deuxième question. Où en est-on dans le dossier de la maison médicale ? Alors, on en est dans la situation suivante. Le permis de construire a été accordé le 15 août. Voilà, donc on est dans les deux mois de recours, en fait, hein, là. En ce moment, l'affaire est toujours en étude chez des banquiers. Donc, on attend toujours que cette affaire-là soit traitée. Voilà. Mais aujourd'hui, les dossiers dans les banques... c'est assez long à traiter, c'est complexe. Voilà. Donc on suit évidemment attentivement pour, dans la mesure où on le peut, parce que moi je ne peux pas aller voir le banquier et lui dire voilà, monsieur le banquier, dites-moi tout. Je pense qu'il ne voudra pas. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle sur ce sujet.
Oui, je vais poser la question parce que j'ai oublié maintenant, je n'ai pas vu les plans. Parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de salle d'attente.
Si. Alors, je sais pas, si, monsieur Foury, il y a une salle d'attente.
C'est pas quand même absolument étonnant.
La nouvelle loi, c'est ça, c'est la salle d'attente par qui.
Non, non, il y a, non, il y a une salle d'attente.
C'est du drive.
Ça, c'est quand ils seront ponctuels, ce sera pas.
Il y a une salle d'attente. Ce que je peux ajouter, c'est que pour notre part, évidemment, on a été très investi sur ce dossier. J'ai été avec le porteur de projet chez l'ABF, qui d'ailleurs, ça a été traité rapidement. Je reconnais que, d'ailleurs, je peux en parler. Moi, je dirais qu'ici, avec M. Laurent Pradoux, je le dis d'autant plus aujourd'hui qu'il est parti. On a fait un travail de qualité. On a toujours dialogué. Et d'ailleurs, je lui rends d'une certaine façon hommage, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un dossier difficile où il disait « je ne suis pas d'accord », il était toujours prêt à recevoir les gens. Et à l'issue de ça, il y avait toujours des solutions qui étaient trouvées. Je le dis d'autant plus facilement que donc aujourd'hui, il est parti. Il est parti prendre la responsabilité de l'ABF du département de l'Aisne, qui, paraît-il, est la zone protégée la plus importante en France, autour de Laon, avec tout ce qu'il y a. Et aujourd'hui, nous sommes sans ABF, donc un nouveau doit arriver. Et dans l'attente, j'ai bien peur que, c'est du moins ce qui m'a été dit, que ce soit monsieur... allez-y. Guénoun, voilà, qui s'occupe de Verberie. Comment ? Pour l'instant, avec M. Pradoux, il a quand même eu, encore une fois, le très grand sérieux professionnel de traiter tous les dossiers déposés avant de partir. Pardon ? Ah ben non, non, non.
Oui, c'est ce qu'on en suspensive et l'obtention des...
Alors l'obtention du permis de construire, donc ça y est, ça s'est levé, et l'obtention des fonds, hein. C'est bien, ça va de soi. Voilà, ça c'était la deuxième question. Troisième question, donc c'est M. Michel Biès qui l'a posée. Donc effectivement, M. Braillet, alors s'est vu offrir, bon, c'est pas un cadeau de Noël, mais du moins s'est vu doté d'un VTT électrique pour se déplacer dans Verberie, afin de lui faciliter son travail. Donc tu trouves que la démarche est très judicieuse, merci. C'est une très bonne chose. Je pense en plus que c'est un moyen qui permet d'aller à la taille de Verberie, de se rendre très rapidement d'un lieu à l'autre. C'est peut-être le moyen le plus rapide d'ailleurs. Donc dans ce cadre, les questions sont les suivantes. Quelles sont les personnes qui ont décidé de cet achat ? Bah, les personnes qui ont décidé de cet achat, ça a été comme toujours un petit peu collectif, mais... Il y a eu évidemment le directeur des services techniques qui a été consulté. On en a parlé avec l'adjoint aux finances. On en a parlé aussi en réunion d'adjoints. Donc le consensus s'est fait autour de ça, sur une proposition de vélo électrique.
Monsieur Braillet, qui a demandé...
Et aussi, on a aussi demandé à Monsieur Braillet, qui était tout à fait fanat. Donc tout allait bien. Pourquoi l'achat de ce VTT n'a pas fait l'objet d'une question en conseil municipal? Mais parce que vous m'avez donné un certain nombre de dérogations. Alors, c'est certes un sujet intéressant, mais des choses commandées, on en commande tous les jours, quoi. Je veux dire, le nouveau camion, par exemple, il va faire l'objet d'une décision, mais il va être commandé. Là, on l'a évoqué, il n'y a pas de raison, on informe, parce que c'est quand même là 60 000 euros. Mais il va être commandé dans le cadre normal. Il n'y a pas de délibération. Et d'ailleurs, pour le camion, on l'avait acheté il y a un peu plus d'un an. Il n'y a pas de délibération du conseil municipal pour acheter ce camion. Maintenant, je vous rassure, on ne fait pas n'importe quoi. Et il y avait eu une commission qui avait été réunie pour choisir.
Ce que je veux dire, c'est que bon, on a fait une délibération pour qu'ils aient le smartphone avec les télés. Ça, on en a discuté en conseil municipal. Alors moi, je pensais que suivant le niveau de la somme, ça passait ou ça passait pas en conseil municipal.
Alors, suivant le niveau de la somme, effectivement, mais les sommes sont bien plus élevées.
Pour la subvention.
Non, attends. Allez-y, Madame Jabot.
Pour le PV électronique, c'est pas l'acquisition qui est passée proprement dit, c'est la demande de subvention.
Parce que les demandes de subvention, par contre, doivent passer par le conseil municipal.
Parce que la somme des appareils a été, je crois, c'était 600 euros.
Oui, mais à partir du moment où il y a une demande de subvention, là, par contre, ça doit passer par le conseil municipal. C'est comme ça, c'est la loi. Alors, après, tu poses comme question, combien coûte-t-il? Donc, il a coûté... 1390 euros TTC, d'accord, avec un casque et d'ailleurs des autocollants pour qu'ils soient SVP, le vélo,
qu'on devrait recevoir,
pour une somme totale de 1489 euros TTC. Là-dessus, je signale qu'on récupère la TVA, puisque c'est un investissement qui est donc d'à peu près 300 euros. Voilà. Alors après, ta question, c'était « Avez-vous demandé une subvention de l'État pour l'achat ou la location de ce véhicule non polluant ?» Et tu m'envoies un décret de Légifrance que j'ai regardé qui permet d'obtenir une subvention de 200 euros. Donc, sur cette affaire-là, il faudrait d'ailleurs creuser un peu. Je ne suis pas sûr que les collectivités locales y aient droit.
Je pense que c'est mais, pour les particuliers.
Mais,
je ne sais pas.
Hein. Voilà. Non, mais hormis ça... Si on avait demandé une subvention dans ce cadre-là, je pense que M. Braillet serait toujours à pied.
Non, je ne pense pas, parce que...
Si, monsieur.
Si on raisonne comme tu dis, c'est-à-dire qu'un particulier qui achète un vélo, il fait une demande de subvention à l'État, il ne va pas attendre un an avant d'avoir sa subvention pour acheter son vélo.
Bah, il va attendre un certain temps,
je peux te dire. Je ne sais pas.
Il est remboursé après. En particulier, il est remboursé après.
Voilà.
Là, ça n'empêchait pas de faire l'achat.
Ah si.
Non, la municipalité, c'est l'inverse.
Dans le cadre d'une collectivité, quand tu demandes une subvention, il faut que tu attendes.
S'il te plaît.
Faut que tu attendes l'accord de la subvention pour commencer les travaux, acheter, etc. C'est d'ailleurs à moins d'avoir une dérogation. Ça arrive. Mais si tu n'as pas de dérogation, tu dois attendre d'avoir la subvention pour commencer les travaux, sinon tu t'assois sur ta subvention. Bon, voilà pour donc la troisième question. Donc maintenant, j'ai un certain nombre d'informations. Justement, on ne va pas quitter M. Braillet. Je me souviens quand même, quand il est arrivé, certains avaient mis en cause l'opportunité de son recrutement. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que la SVP est utile sur 35 heures. D'ailleurs, sa personnalité est extrêmement appréciée dans toute la ville, même si parfois il lui arrive de mettre... de verbaliser, mais il a un contact facile, il explique, et il est, les gens que je rencontre apprécient beaucoup son action. D'autant plus que M. Braillet, qui est arrivé en mai, le 2 août, j'ai reçu une lettre de félicitations de la Gendarmerie nationale, du commandant de brigade de la Croix-Saint-Ouen, pas de Verberie, de la Croix-Saint-Ouen. Alors, je ne vais pas forcément vous lire toute la lettre, parce que dedans, il y a des éléments que je considère comme un peu confidentiels. Toujours est-il qu'ils étaient venus ici pour une affaire et pour visionner de la vidéoprotection, les gendarmes de la Croix-Saint-Ouen, d'accord, pour traiter une affaire qu'ils avaient, dont ils avaient la charge, et ils ont discuté avec M. Braillet. Et lors des échanges, parce que M. Braillet, il acquiert la connaissance à une vitesse de la ville, à une vitesse impressionnante. Ils ont eu une conversation professionnelle, c'est alors engagé naturellement, je vais vous lire des passages, hein. C'est alors engagé naturellement entre nos deux services dans le but d'échanger éventuellement des renseignements de toute nature. C'est vous montrer qu'il est au travail en permanence, hein. Nos secteurs de surveillance étant limitrophes, plusieurs sujets de conversation ont été abordés, notamment M. Braillet-Jérôme m'a demandé si le ou les auteurs des faits en date du 11 juin 2017 à Mercières-aux-Bois tirs sur véhicules en circulation avaient été identifiés et interpellés par nos services. J'ai alors porté à sa connaissance que des recherches effectuées en vue de découvrir le ou les auteurs des faits étaient restées vaines à ce jour. Ayant en charge la surveillance de la commune de Verberie, j'ai confié verbalement à M. Braillet que le jour des faits, une connaissance commune à nos deux services était présente non loin du secteur forestier, à une heure quelque peu indue à cet endroit. J'ai alors décidé de lui dévoiler l'identité de cet individu, donc là je passe, sans pour autant affirmer une quelconque relation de cause à effet entre les tirs et cette personne, connue défavorablement de nos services et ayant dernièrement demeuré dans le secteur de Verberie. Je continue. Voilà, poursuivant notre conversation concernant ce monsieur, M. Braillet a porté à ma connaissance que dernièrement, à savoir le 23 juin 2017, les militaires de la brigade locale, alors c'est en fait lui qui a fait le lien entre la connaissance de la brigade de Verberie et la brigade de la Croix-Saint-Ouen, auraient interpellé ce monsieur pour des faits de violence. Des armes à feu auraient également été découvertes. Mon attention, c'est le commandant de brigade de la Croix qui parle, a été fortement attirée par le type d'armes découvertes retrouvées chez ce monsieur. Un éventuel rapprochement est immédiatement fait avec l'affaire de Mercières. Nantis tous ces renseignements, nous nous sommes transportés à la brigade de Verberie afin de confirmer tout ça. Et il ressort effectivement que le 23 juin 2017, les militaires de Verberie avaient fait ce qu'a dit monsieur Braillet. Lors de cette perquisition, une saisie relative à la découverte d'armes et de munitions avait été effectuée. Suite aux renseignements obtenus et des investigations effectuées courant mi-juillet 2017, ce monsieur a été interpellé et présenté au parquet de Compiègne où il a reconnu les faits de tentative d'homicide. Par sa curiosité et son engagement, M. Braillet a contribué efficacement à la résolution de cette affaire et a fait montre en la circonstance d'excellentes qualités professionnelles qui font honneur à sa profession et aux élus de la commune de Verberie. Veuillez agréer, monsieur le maire, etc. Voilà, je crois que... Chapeau. Chapeau bas.
Je précise qu'il a aussi tout son rôle auprès des écoles. Il est vraiment apprécié de tous les enfants. Ça me fait rire, on voit même des gamins qui viennent lui dire bonjour. Et il a résolu tout un tas de problèmes d'incivilité puisque les gens maintenant se garent correctement sur les parkings, ce qui n'était pas le cas avant son arrivée. Donc franchement, voilà.
Une intervention très efficace. Bien, dans les autres faits, plan de prévention du risque inondation. Nous avons donc pris une délibération, un avis que nous avons rendu dans le précédent conseil municipal qui a été envoyé. Depuis, les choses ont pris de l'ampleur. L'agglomération a également pris un avis qui est dans le même sens. Et aujourd'hui, il y a effectivement toute une protestation qui est en train de monter, qui regroupe au moins, dans un premier temps, deux intercommunalités, l'agglomération de la région de Compiègne et la communauté de communes des Deux-Vallées, c'est-à-dire Tourotte. Donc, sont unis dans cette... protestation contre un projet de document qui nous semble tout à fait déraisonnable. C'est d'ailleurs ce que nous avions voté à l'unanimité à la séance dernière, qui ne consacrait, nous, évidemment, que Verberie pour les exemples. Mais ces exemples-là ont été repris sur toutes les communes, parfois avec des effets, d'ailleurs, beaucoup plus importants. Donc là, il y a effectivement une montée de tout ça, une volonté de mettre une volonté que l'État rouvre les portes du dialogue sur ce sujet, ce qu'il n'est pas nécessairement décidé à faire. Personne n'a dit, et d'ailleurs dans notre avis, c'est pas ce qu'on a dit non plus, que une certaine évolution du plan de prévention du risque d'inondation n'était pas nécessaire. Maintenant, l'évolution qui a été prise là semble à tout le monde extrêmement disproportionnée. Il ne faut pas oublier que les raisonnements en silo, parce qu'en fait c'est ça, chacun raisonne dans son petit silo. Donc dans le réseau silo des experts d'inondation, vous arrivez à un document qui au passage fait 270 pages, qui sont assez incompréhensibles. Bon courage, on en a déjà parlé, pour la lecture, ceux qui veulent s'y mettre, vous pouvez télécharger sur le site de l'agglomération de Compiègne. Le document complet fait 1000 pages. Donc, je voulais dire que, évidemment, il y a une évolution. Là, typiquement, on est dans des, nous semble-t-il, dans des excès. On souhaite que l'État rouvre les portes du dialogue, parce qu'on a fait je ne sais combien de réunions. J'y ai passé je ne sais pas combien de temps l'an dernier. Et au final, en fait, l'État a claqué la porte et a sorti un document sans tenir aucun compte de ce qui avait été dit. Donc ça, c'est quand même assez fort de café. Donc aujourd'hui, demain, il y a une réunion publique qui se tient à Margny-les-Compiègne, salle Guérin, hein, à Margny-les-Compiègne, allée de Guérin, pour justement parler de tout ça. Il y a eu des rencontres avec les chefs d'entreprise qui ont été faites à Compiègne. Normalement, l'agglomération était chargée d'envoyer des invitations à l'ensemble des chefs d'entreprise. Là, c'était dans leurs mains. Donc j'espère que... Je sais que certaines entreprises de Verberie les ont eues. Est-ce qu'elles les ont toutes eues? Je ne sais pas. De toute façon, typiquement, demain, il y a une réunion publique qui rassemble tout le monde à Margny-les-Compiègne. Et le 30 septembre, il y a une manifestation qui se tiendra sur le viaduc de Choisy-Aubac, qui est aussi largement concerné. En fait, du point de vue des inondations, Verberie et Choisy-Aubac, on se ressemble quand même étrangement. Voilà, de ce point de vue-là. Mais qui réunira toute l'agglomération de la région de Compiègne et toute la communauté de communes des Deux-Vallées. Ce n'est pas si souvent qu'on voit deux personnes comme Philippe Marigny et Patrice Carvalho côte à côte. Décider à défendre leur territoire. Voilà. Voilà pour ça. Ceci dit, donc j'incite effectivement tout le monde, c'est pour ça qu'on a avancé le conseil municipal à ce soir. Tous ceux qui sont disponibles, ben, je vous invite à y aller, parce que les présentations qui sont faites par l'agglomération sont pédagogiques, didactiques, vous épargneront la lecture des 250 pages qui sont... un vrai charabia, d'ailleurs, bon, voilà. Derrière ça, bon, voilà, nous, on a, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Monsieur Floury, vous aviez dit que vous aviez écrit sur le premier PPRI de nombreuses pages. J'avoue qu'on les, on les a cherchées dans le registre des délibérations, on n'a rien trouvé à ce sujet-là, donc si vous les avez encore, on est preneur.
Oui, j'ai écrit de nombreuses pages, qui ne servent à rien. Qui était écrit d'ailleurs pas manuellement.
D'accord, bon. Nous, on a cherché s'il y avait une délibération, on n'a rien trouvé. C'est de 2000-2001, hein, c'est dans ces eaux-là, donc on n'a rien trouvé.
Oui, c'est ça.
Ensuite, autre sujet, les gens du voyage. Donc on a eu trois arrivées de gens du voyage, deux essentiellement, dont une qui s'est produite au mois d'août, pendant que j'étais absent, mais qui a été magnifiquement traitée par l'adjoint aux finances qui est à mes côtés, et qui, faut dire que là, l'agglomération, c'est quand même bien, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la police pour le stationnement des gens du voyage. Et là, ils ont les gens qu'il faut, ils ont les procédures qui sont prêtes, et ça part immédiatement. Hein, je crois qu'ils sont arrivés le soir à 19h, Le lendemain matin, à midi, le préfet avait tout. Et donc, effectivement, alors après, il y a les délégués légaux, voilà. Mais 10 ou 11 jours après, on a eu l'arrêté de mise en demeure de départ dans 48 heures. Et effectivement, ils sont partis 48 heures après. D'autres visiteurs sont arrivés avec une dizaine de caravanes, rebelotent, arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux et la ville. Ça a également été efficace. J'avais également des gens du voyage qui s'étaient garés sur l'espace public qui se situe sur la route du manoir Saint-Germain, à l'extérieur, donc sur la voie publique, qui d'ailleurs gênait considérablement la circulation des riverains à cet endroit-là. Voilà. Donc là, j'ai eu l'arrêté d'expulsion avant-hier, ils sont partis. Et donc, voilà, je voulais quand même, sur cet aspect-là, nous avons été chanceux, si je nous compare à Chevrières ou à d'autres communes, parce que nous avons eu la chance, qu'ils ne sont rentrés dans aucun bâtiment. Je pense à la salle d'Agobert, bon, qui est de la responsabilité de l'Arc, mais bon, c'est aussi la nôtre, hein, puis elle va bientôt nous revenir d'ailleurs. Et à la halle des sports, donc il n'y a pas eu de dégâts.
Même autour, il y a eu des voiles.
Comment ?
Autour, il y a eu des vols et des agressions.
Alors, autour, il y a eu des vols, des agressions, je ne sais pas, des vols. Ceci dit, alors, j'exclus rien. Les gens du voyage peuvent être responsables aussi. On sait aussi, il faut interroger la gendarmerie, que quand les gens du voyage sont quelque part, il y a des vols et que parfois, parce que les gens savent bien qu'on va dire que c'est les gens du voyage, certains profitent de l'opportunité. Je n'ai pas dit que c'était tous les cas. Mais je dis que ça existe aussi. Ça existe aussi. Voilà, pour ce qui est des gens du voyage, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
J'avais une information à porter dans le cadre de la commission finance que j'ai eue à l'ARC récemment concernant les ordures ménagères. Sachez que la facture du semestre 2016 qui nous manquait, deuxième semestre 2016, va se faire très prochainement. Pour 2017, nous la recevrons courant janvier 2018. Et pour 2018, il n'y aura plus de facture semestrielle. Ce sera une facture annuelle qui sera reçue.
Est-ce qu'on pense à ceux qui ont des petits revenus aussi ?
Bah, de toute façon, qu'il y a des petits revenus ou pas, à l'année, il faut payer.
Ils payent combien ?
Ils payent dans leur taxe. Pas de la même façon.
Jean-Claude, pas de la même façon. Nous sommes arrivés.
Même pas des gens qui gagnent 650 euros par mois.
Non, mais Jean-Claude, moi je t'amène la formation que j'ai eue. Voilà. Après, les gens qui vont pas avoir les moyens de payer peuvent s'arranger avec la trésorerie pour demander un étalement. Voilà.
Mais tu as tes poubelles sur l'année, puis tu vas encore tes poubelles sur l'année, puis encore tes poubelles sur l'année, puis encore un.
Bah, il faut bien payer tes poubelles, comment tu fais ? Il faut bien les payer, les poubelles.
Ah, moi je paye, je suis pas jalé.
Non mais. C'est pas. Le ramassage des poubelles, c'est de la salubrité publique, tu ne peux pas faire autrement.
Oui, rappelons-nous que quand nous sommes arrivés.
Comment on fait ?
Je connais quand même des gens qui vivent avec 650 euros par mois, je peux te dire qu'ils ne vivent pas, ils survivent. Donc, et encore les poubelles.
Bien.
Il a payé déjà les poubelles.
Oui.
Sur la
taxe d'habitation.
Sur le foncier.
Sur le foncier.
T'as dit qu'ils avaient payé le deuxième trimestre. Et au mois de janvier, ils vont payer encore une fois. Oui,
c'est ça. Non, mais. Là,
c'est parce que ça n'a pas été payé.
Voilà, là, il y a eu pendant un an. Pendant un an, les factures se sont baladées à gauche, à droite.
Enfin, pendant un an, bon, moi je veux bien.
Tu sais, moi je suis à fond et je paye.
A priori.
Il paraît qu'il y a deux personnes pendant 8 mois pour traiter 3 000. Bon, moi je veux bien, mais ça fait.
Et qui c'est qui paye
à deux.
Non, mais là, il n'est pas la question, je pose. Tu le sais bien, ça.
C'est combien qui paye la bête?
Pour la remise,
c'est l'Arc qui paye.
Pour la remise en ordre.
Dans,
bon, je vais vous donner un exemple sur le fichier qui existait. En termes de lignes erronées, il y avait autant de lignes erronées que d'habitants. C'est-à-dire, il y avait 11 000 lignes erronées. Voilà.
Sur la dernière facture.
Non, non, sur la base de données qui a été transmise.
Oui, sur la
avec des problèmes, mais vous le savez très bien, parce que c'était ça n'a pas commencé avec l'ARC, avec des problèmes de trésorerie, puisque c'était parti à Strasbourg, avec des problèmes de, comment on appelle ça, de TIP, etc. De, voilà.
Il n'était pas bon, parce qu'il avait mis une fois la perception bon. Que c'était permanent. Ouais. Enfin, jusqu'à la dernière facture, j'ai jamais eu de problème. Hein.
Non, mais
en 7 ans, j'ai eu de problème.
Depuis après, qu'on a changé de.
Mais...
Enfin, les... quand on a changé.
Il y avait vraiment 11 000 facteurs ouais, mais... erronés, puisqu'il n'y a que 3 500 employés. Alors, il n'y a pas une facture par personne.
Hein. Moi, non, mais il y avait des doublons partout. Ça arrive dans une base de données qu'il y ait des doublons. Et
on
ensuite.
Bien, mais
bon, on va.
Non, mais...
Eh bien, écoutez, vous prenez rendez-vous.
Moi, je veux bien prendre, je veux prendre rendez-vous avec l'ARC. Enfin, bon. Je sais.
Non, mais...
que... Et je sais qu'en un an, disons, ça n'est bientôt un an, hein, personne n'a été capable. Et je vous dis, ils étaient à deux. Alors, j'ai eu, ils étaient à deux
Patrick,
pendant 8 mois. Pour traiter 3000
la base de données, lorsqu'elle a été transmise,
par jour, par personne,
on était au conseil à la CCBA. Lorsque le dossier a été transmis à l'ARC, il a été transmis avec toutes les erreurs, puisque
les trois quarts des erreurs.
Non, il y a eu un prêt, il y a eu un prêt relais mis en place. Dis pas ça, Patrick. Il y a eu un prêt relais mis en place à la CCBA pour ça, 600 000 euros.
Bah, il suffit
non,
de sortir
non,
les
non,
documents.
Ah, c'est bon, on a les remis, il ne restait plus que 200 000 euros qui étaient...
On poursuivra peut-être ce débat dans une autre instance.
Et quand même, il y a une petite question qui se dit, comment ils peuvent garantir qu'aujourd'hui, maintenant, les erreurs sont bien corrigées et que les gens vont payer ce qu'ils doivent vraiment payer?
Bien, là, parce que...
Du coup, avec autant d'erreurs, il y a potentiellement...
Parce qu'il y a eu un très gros travail de fait, notamment sur la facturation du premier semestre qui avait été lancée par la CCBA et sur laquelle il y a eu des choses catastrophiques.
Tout à fait. Alors là, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Bon. Il y avait trois erreurs. Il y a eu Strasbourg.
Ouais, bah oui. Mais ça.
Où l'argent a été versé à Strasbourg, mais ça, ça n'était pas sans CCBA. Et les CEPAP ont été.
Bien.
Mais tout ça a été à part.
Je vous propose d'avancer sur ces affaires-là. Toujours pour répondre à Nicolas, quand j'ai écrit un petit mot là-dessus, j'ai demandé aux personnes de rester, de bien regarder leurs factures. Parce que effectivement, on sort d'une situation qui est très... Il faut bien regarder.
Moi, on m'a réclamé alors que j'avais payé. Et j'en ai au cabinet, j'en ai 7 ou 8 auxquels on a réclamé, ils avaient déjà payé. Alors effectivement, on peut...
Et vous savez très bien que dans ce cas-là, ce n'est pas l'agglomération, mais c'est la trésorerie publique.
Ouais.
Ah oui. Bien, c'est qu'il y avait vraiment de très gros problèmes. Bien, on va passer à autre chose.
Il faut quand même rappeler, ce que Jean-Claude avait l'air, on était contre ce système de facturation au poids, accessoirement.
Alors, sur ce que tu as dit, Jean-Claude, donc, nous sommes rentrés dans une agglomération où les choses sont toujours payées sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est-à-dire sur le foncier. Nous sommes rentrés avec le système qui prévalait à la communauté de communes La Basse-Automne, avec la redevance incitative au poids, et nous avons donc 5 ans, enfin maintenant un peu moins, plutôt 4, pour converger vers le même système.
Et on sait quel système sera retenu, si c'est...
C'est la loi. La fin du marché.
Moi, il y a un truc qui vient ici quand même, c'est que quand les gens voient, j'étais là, il y avait au moins 2 tonnes de poubelles. Et
non.
C'est encore multiple. Oh, j'ai pris des photos.
Non, mais je les ai vues, les photos, il n'y avait pas d'automne. Mais après, qui est...
Qu'est-ce que tu fais, alors, dans ce cas-là?
Il paye.
Jean-Claude.
Mais non, ils ne payent rien, ces gens-là, tu le sais bien. Allons. Mais non, mais tu...
Jean-Claude.
Mais tu veux refaire le monde, là.
Jean-Claude.
Tu leur fais le
rien. Alors pourquoi nous, on nous impose à nous faire payer et eux, voilà.
Jean-Claude,
tu refais le monde, là.
Jean-Claude.
On ne refait pas le monde.
Mais si.
Moi, je voudrais juste...
Un peu de silence, s'il vous plaît.
Je voudrais juste préciser que nous étions contre et nous avons voté contre à l'agglomération ce système de pelle au poids.
Donc, ouais,
mais après, il y a la réglementation qui s'impose. On ne peut pas aller contre la loi. On n'a aucun moyen.
Même si c'est sur la taxe foncière, quand on a ce genre de situation, ils ne payent pas quand même leur couverture. Mais c'est un problème insoluble.
Non, mais c'est pour ça, on ne peut pas refaire le monde.
Ils ne payent pas la baisse.
Bien.
Dans leur caravane.
On va déjà essayer de faire appliquer la loi.
Je la retrouverai en forêt.
Qui consiste.
Je la retrouverai en forêt.
Jean du voyage.
Je la retrouverai en forêt.
Et merci de ne pas ajouter, parce que sinon on va débattre pendant des heures. Mais je voudrais simplement dire une chose. Au-delà des poubelles, c'est qu'aujourd'hui la loi a imposé à l'agglomération de la région de Compiègne de mettre en place une aire de grand passage. Qui est en place ? De mettre en place, comment ça s'appelle, des accueils, des sites d'accueil. Enfin, c'est pas le terme exact, hein, mais qui tout ça est en place. Ces gens-là, l'ARC l'an dernier, donc l'agglomération, a investi pour respecter la loi 400 000 euros sur ces affaires-là. Les gens du voyage refusent d'y aller. Voilà. Donc, faisons déjà appliquer la loi. La loi nous a demandé de faire un certain nombre de choses. On l'a fait, ça nous coûte cher. Et maintenant, donc, ils y vont. Voilà. Et ça, c'est plus cher que les poubelles. 400 000 euros.
Et puis la première fois, c'était 800 000. Hein. Et puis une deuxième fois, 600 000.
Ouais, parce que là, il y a eu des réparations qui ont été faites la première fois. Hein.
Bien. Je vous propose de donc quitter ce sujet. Sinon, on va y passer la nuit. Autre sujet qui nous impacte aussi extrêmement directement. Tout le monde en a entendu parler. L'État a décidé de ne plus renouveler les emplois aidés. Au moins, c'était la première démarche. Pour nous, donc pour la commune en direct, nous avons deux emplois aidés. Donc là, je dirais, c'est pas. Bon, je vais vous relire simplement ce que j'ai écrit sur le sujet. Je fais simplement. Alors, je disais que je m'exprimerai pas sur la question, mais qui est pourtant fondamentale, de savoir si ces emplois participent efficacement ou pas à l'insertion professionnelle de ceux qui en bénéficient. Je fais simplement le constat d'une application brutale et sans préavis de cette décision de l'État à la fin du mois d'août et à quelques jours de la rentrée scolaire, frappant ainsi de plein fouet les communes sans leur donner le temps de réagir. Il n'y a eu aucune concertation préalable alors que le gouvernement parle d'instaurer la confiance avec les collectivités locales. La commune de Verberie compte deux emplois aidés, école maternelle et crèche, mais le fonctionnement de la MJC fonctionne financé significativement sur le budget communal. Rappel. Qui gère jusqu'à présent le périscolaire, les nouvelles activités périscolaires et l'encadrement des maternelles au centre de restauration scolaire s'appuie sur 11 emplois aidés. D'ici le 31 décembre 2017, l'un des deux contrats aidés de la commune s'arrête au 1er octobre. Bon, ok, on est peut-être d'ailleurs en train de trouver une solution. 6 contrats de la MJC se terminent avant le 31 décembre, 2 au 31 août et 4 en novembre. Cela représente pour les 4 mois de la fin de l'année un coût supplémentaire supérieur à 10 000 euros, quand je compte la commune, dont 9 600 euros rien que pour la MJC. 9 600 euros. Donc, on va effectivement, pas lors de ce conseil municipal, mais lors du prochain conseil municipal, là, on était quand même... coincé à la gorge, hein. Prévenu dernière semaine d'août, à quelques jours. C'est d'ailleurs nous qui avons provoqué la réunion à la MJC, devant cette situation-là. C'est moi qui l'ai provoqué. Oui, on est quand même très coincé par cette affaire-là, dans l'immédiat. On va réfléchir à voir comment améliorer les choses. Je vais vous en dire quelques mots après. 9 600 euros rien que pour la MJC, donc on va proposer une subvention supplémentaire. La MJC nous demande 9 600 euros en plus, mais bon, au passage, elle a oublié qu'une partie de ses surcoûts serait facturée au travers des nappes et donc des nouvelles activités périscolaires et de l'encadrement des maternelles. Donc le surcoût n'est pas vraiment de 9 600 euros, mais enfin, c'est pas, ça ne va pas le diviser par deux. Dans l'hypothèse où l'État maintiendrait sa position de ne pas renouveler les contrats d'emploi aidés qui arrivent à échéance et sans modification, sans modification du tarif et de l'organisation, parce que je rappelle que tout ça, la MJC, il y a une répartition entre l'usager et le contribuable, Si on ne change rien, l'impact serait de l'ordre de 60 000 euros. Estimation grossière, j'attends une estimation précise de la MJC pour la totalité de l'année 2018. Voilà. Bon, après, je mettais un certain nombre de choses, mais qui sortent un peu de ce cadre-là. Donc, voilà où on est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Dans l'urgence, le préfet a créé un comité, commission, pour examiner ces affaires-là. Nous, dans les deux jours, avec l'aide de Madame Javelot et aussi de la MJC qui m'a transmis les éléments, on avait tout transmis à la directe, donc préfecture, puisque c'est elle qui s'occupe de ces affaires. Notre dossier est passé vendredi dernier en commission. J'ai eu la dame cet après-midi. Il a été ajourné et il le représente vendredi, après les élections sénatoriales. Point. Donc il le représente vendredi. La question qu'on m'a quand même posée, c'était de savoir si on était à 4 jours ou à 4 jours et demi pour l'école, sachant que ça se trouve dans toutes les bases de données qu'on peut consulter sur Internet, y compris les bases de données de l'État. Bon. Et puis également, ils ont besoin d'autres éléments. Enfin voilà, donc notre dossier repasse. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Normalement, nous ne sommes pas dans la cible, puisque la lettre signée par les trois ministres dit que la cible, ce sont les communes de moins de 2000 habitants. Bon, néanmoins, bon, je ne sais pas, c'est en train d'évoluer. Enfin, tout ça, c'est un peu magmatique. Et je devrais avoir des réponses la semaine prochaine sur l'avancée de tout ça. Enfin, ça nous permettra de mesurer plus précisément quel sera notre surcoût à l'avenir et puis aussi comment on va se réorganiser. De toute façon, on devait le faire. On avait dit qu'on poserait, c'est Laurent qui en est en charge, en tant qu'adjoint aux affaires scolaires, qu'on interrogerait les parents, les enseignants, et nous, on s'interrogera aussi pour savoir si on passe à 4 jours ou pas, qui peut être une manière aussi de réduire la facture, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on continue à toucher l'aide pour être à 4 jours et demi, qui se compte à 50 euros par enfant que nous verse l'État. Ceux qui sont passés à 4 jours ne touchent plus cette aide. Donc voilà, il faut faire les plus, les moins, regarder. Donc là, c'est un peu... voilà, on ne peut pas encore aller plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire et qui est quand même d'importance sur ce sujet. Ça va impacter, évidemment, l'équilibre, l'équation budgétaire va encore être plus compliquée qu'avant, surtout qu'il y a 13 milliards à trouver, que les taxes d'habitation, je crois que ça commence en 2018, on ne sait pas très bien comment derrière ça va fonctionner. Enfin voilà, on a plein de questions. Et puis il y a aussi, il faut en parler, au niveau des fonctionnaires, de la territoriale, la CSG va être augmentée de 1,7%. Dans le privé, il y a un mécanisme que je connais très mal, mais qui est un mécanisme en fait qui fait que les salariés ne devraient pas être perdants, mais devraient être plutôt gagnants. Aujourd'hui, dans l'administration territoriale, quid de ce mécanisme ? Personne n'en sait rien. Est-ce qu'on va dire aux collectivités, ben messieurs, vous faites plus 1,7 point ? Est-ce qu'on va trouver d'autres méthodes ? Je n'en sais rien. Voilà. Emploi aidé. Voilà. Ensuite, oui, si j'ai un petit point. On refait une intervention sur le plancher de l'église de Verberie. Parce que dans les travaux, la première tranche, donc qui était finie, je crois, quand on est arrivé, il y a eu de nouveau une attaque de
Mérule.
Voilà. Donc derrière ça, on fait intervenir tout de suite. Il paraît que maintenant, on a des produits qui sont plus performants. Bon, ben, on va bien voir sur ces affaires-là.
Voilà. Juste préciser, peut-être comme ça s'est passé en fin d'année, le fait qu'on est resté aux 4 jours et demi.
Oui.
Je voudrais juste repréciser.
Alors, je donne la parole à Laurent Baumler sur les 4 jours et demi.
Oui, je voulais juste revenir, puisque c'est le premier conseil de la rentrée. Comment ça s'est passé sur le fait que nous restions aux 4 jours et demi ? Donc, il y en a qui peuvent se poser la question. Donc, rappelez-vous, quand il y a eu les élections présidentielles, donc en mai, mise en place du gouvernement après législatif, c'était courant juin. le ministre de l'Éducation nationale a plus ou moins annoncé que les communes, sur accord du maire, enfin le maire avait plein pouvoir pour repasser aux 4 jours dès la rentrée, mais il fallait quand même consulter un minimum les conseils d'école. Sur les communes qui ont fait le choix, donc il fallait attendre déjà la sortie du décret, qui est sorti 3 jours avant la fin de l'année scolaire, je m'en rappelle quand même. Et si vous regardez donc, tout ce qui s'est passé dans les communes environnantes, tous ceux qui ont fait le choix, ou quasiment tous ceux qui ont fait le choix de repasser à 4 jours, c'était évidemment essentiellement des petites communes qui n'avaient pas organisé des nappes, il n'y avait pas d'activité, donc évidemment, ils n'attendaient qu'une chose, c'était de repasser aux 4 jours. Moi, j'avais fait le choix, entre guillemets, de patienter un petit peu lors des conseils d'école du mois de juin, parce que de toute façon, il faut l'accord des conseils d'école. Hein. Ce n'est pas le maire qui décide, c'est marqué comme ça, mais il faut l'accord des conseils d'école.
Et de l'inspecteur.
Et de l'inspecteur. De l'inspection. Nous, j'en ai parlé en conseil d'école, donc dans les 3 conseils d'école. Nous avons donc, il en était ressorti, en effet, il fallait attendre des élections, etc., etc. J'ai réuni une commission scolaire, donc c'était, je n'ai plus la date en tête, M. Cornil, vous étiez consulté avant, mais on était en attente d'élections. Alors, je ne sais plus en quelle date précisément, mais nous avions évoqué le sujet également, et nous avons fait le choix d'attendre. Quand le décret est sorti, en effet, on aurait pu se dire, je reconvoque les 3 conseils d'école et puis on annule tout, sauf qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a la MJC qui avait... organiser tous ces plannings de rentrée. Nous, on a du personnel communal, donc il fallait rebouleverser le planning des ATSEM. Il y a le collège qui avait sorti ses horaires pour la rentrée avec ses nouveaux professeurs, et je vous rappelle qu'on utilise qu'on partage la halle des sports avec le collège, donc ça faisait beaucoup trop de bouleversements. Et je suis désolé d'occulter le rythme de l'enfant, mais dans cette réforme, on a bien occulté une chose, c'est celui-ci, le rythme de l'enfant. Et donc, on est tous d'accord pour dire que cette réforme n'est pas bonne pour l'enfant. Hein. Il n'y a pas d'études qui disent qu'ils sont plus ou moins fatigués avant ou après cette réforme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des contraintes à respecter. Et moi, je n'aurais pas fait le choix, en tout cas, de rassembler tout le monde en 3 jours, et puis de dire on annule tout, et puis de dire aussi aux parents, juste avant de partir en vacances, débrouillez-vous pour le 1er septembre pour votre nouveau mode de garde. Donc voilà pourquoi nous avons patienté. Donc maintenant, avec ces éléments-là, on va retravailler le sujet. Ça nous laisse plusieurs mois pour nous retourner et puis d'interroger pour voir ce que l'on peut faire à l'avenir. Voilà, je voulais repréciser ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Dernier point. L'association Agriculture a tenu son exposition, qui d'ailleurs s'est magnifiquement déroulée. Elle a donc réalisé le tableau qui va être affiché en salle des mariages. J'avais prévu de vous le projeter. Bon. Ceci dit, j'avais quand même oublié d'envoyer le fichier à M. Leblanc. Mais bon, on aurait pu s'arranger. Là, j'ai l'ordinateur qui est là. Ceux qui veulent le voir, d'ailleurs, je peux le mettre sur l'écran. Vous passez le voir à la fin. Voilà, je peux faire ça. Encore une fois, ça ne va pas être planté dans le mur. Hein, c'est un tableau. Donc, il sera accroché, c'est tout.
Il est grand ?
Ah, il est assez grand, oui. Il fait combien, Odile ? 2 mètres sur 3, 3 mètres sur 3 ?
2 mètres sur 3 à peu près.
2 sur 3.
Ouais. Oui, voilà. Mais je vais. 2
mètres 50 sur 3,50.
Je vais l'afficher.
Vous voulez piquer au bout, c'est ça ?
Voilà. Je clôture la séance du conseil municipal. Alors, concernant la question de M. Lamy, j'ai dit tout à l'heure.